Alors, on va faire Bezrat Hashem notre troisième cours sur le chapitre 16. Et on est dans le Tanya, dans la page 219.
Ah, ben, je suis
dedans. Voilà, page 219. Donc, en fait, normalement, il y a le marque-page qui est dessus. Dans ce chapitre, on a donné deux grandes bases qu'on s'adresse au Benoni. Donc, le Benoni, on rappelle, c'est celui qui n'est pas tzadique. C'est-à-dire que, pour lui, être un juif religieux, c'est pas quelque chose de naturel. Mais c'est pas un rachat non plus, parce qu'il essaye de bien faire. Le rachat, il en a rien à faire. Lui, le Benoni, il essaye de bien faire les choses. Et on a expliqué que quand on parle au Benoni, on lui donne deux grands principes dans la vie qui doivent l'accompagner toute sa vie. Premièrement, premier principe qu'on lui a dit, bonsoir, d'accord? Premier principe qu'on lui a dit, on lui a dit, tu dois savoir que tu ne dois pas te focaliser sur le résultat. Toi, tu dois savoir que tu dois te focaliser sur le fait que tu es déjà en train de te battre avec ton Yetzirah. Du fait que tu te bats avec ton Yetzirah, ça même c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais juste une petite anecdote pour illustrer ça. Je me rappelle une fois, on était dans une, puisqu'on est encore dans les 30 jours du Rav Azimov, Zichrono Livracha, et je me rappelle une fois, on était dans une réunion des Shluchim avec le Rav Azimov, et le Rav Azimov, il nous avait dit, des fois, il y a des jeunes qui viennent s'installer dans une ville, ils s'attendent à avoir des résultats tout de suite. C'est-à-dire, ils commencent à faire du porte-à-porte, etc.
Les Shluchim,
ouais. Ils viennent, ils s'attendent à avoir du résultat tout de suite. Et quand ils n'ont pas le... Ouais, ça roulait très mal. Moi aussi, je suis venu à Riorka. Et quand ils voient qu'au bout de quelques mois, même au bout des fois d'un an, ils voient qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils pensaient, alors ils sont dégoûtés. Et il nous avait dit la chose suivante, sachez qu'avant de voir les résultats d'un travail, il faut attendre au moins 10 ans. Il a dit, c'est seulement au bout de 10 ans, que tu peux commencer à avoir, à récolter vraiment les fruits de ce que tu as fait. Parce que des fois, les fruits que tu crois avoir obtenus, c'est rien par rapport à ce qu'il y aura. En vérité, on peut donner un exemple très simple. Regardez.
Dans tous les domaines.
Il a dit dans ce domaine-là, mais je pense qu'on peut appliquer ça dans beaucoup de domaines. Regardez un autre exemple. Par exemple, on éduque les enfants. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça va donner? Monsieur Jackie Cohen, qui a plus d'expérience que nous. Est-ce qu'on sait quand j'éduque un enfant, je l'ai éduqué à l'âge de 1 an, est-ce que je sais ce que ça va donner? J'en sais rien du tout. Même 10 ans plus tard, je sais pas ce que ça va donner.
Ouais, mais d'accord, quand même, en fonction de l'orientation qu'on a donnée,
oui,
l'école,
bien sûr,
les parents, comment ils sont, l'environnement dans lequel
Il suffit de quelques jours pour tout faire bifurquer.
Non. En fonction de l'environnement dans lequel il a voué, il a plus de chances de venir qu'un Benoni qu'un Rachat.
Il y a plus de chances, exactement. Voilà. Donc, en tout cas, 218. Donc, en tout cas, ce que j'ai expliqué, d'accord, 219. Ce que j'ai expliqué, c'est que il nous avait dit ça, le Rav Azimov, et je trouvais que c'était vraiment très très juste et que ça correspond à ce qu'on est en train d'étudier ici, c'est qu'on s'adresse au Benoni, on lui dit ne t'attends pas à avoir du résultat instantané. Ne crois pas parce que tu es décidé de devenir un juif religieux,
merci,
parce que tu es décidé de faire la Torah et les mitzvot, parce que tu es décidé de faire ton Shabbat, ne crois pas que tu auras des résultats instantanés et que tout de suite tu vas devenir un juif religieux. Ça marche pas comme ça. Les choses prennent du temps. Et donc ça c'est le premier principe qu'on a donné au Benoni. D'accord ? Première chose qu'on a dit au Benoni. Deuxième chose qu'on a dit au Benoni, on lui a dit, tu sais, des fois, tu te poses la question, mais finalement, est-ce que ce que je fais correspond à ce que je suis? Je me pose la question, des fois, je me suis lancé dans la Torah et les mitzvot, et je me pose la question, est-ce que quelque part je ne suis pas hypocrite? C'est la deuxième question qu'on a posée. Et qu'est-ce qu'on a répondu sur ça? On a dit que sur ça aussi, on s'adresse au Benoni, on lui dit, sache qu'en vérité, au fond, toi, tu as une neshama, et que cette neshama veut servir à Kadosh Baruch Hu. Et qu'en vérité, quand tu vas servir à Kadosh Baruch Hu, quand tu vas faire des efforts, tu ne vas faire qu'essayer de développer un potentiel que tu avais déjà en toi. Donc, Monsieur Trigalo, d'accord, il a dit qu'il voulait qu'on soit un peu plus clair. Donc.
Non. Non, là, c'est.
Alors, attendez. Donc, je résume. On a dit deux grands principes qu'on adresse au Benoni, d'accord? Premièrement, on lui dit, ne te focalise pas sur le résultat.
Merci.
Focalise-toi sur le travail. Le fait même que tu travailles, c'est déjà important, premièrement. Deuxièmement, on a dit au Benoni, on lui a dit, même si des fois tu as l'impression que tu es un peu hypocrite, d'accord? Que c'est un peu en train de simuler. On te dit, t'inquiète pas, fonce, vas-y, parce que, en vérité, tu es en train uniquement d'essayer de sortir, de développer un potentiel que tu as en toi. Voilà, ça, avec ça, on avait terminé dessus la semaine dernière, qu'on a dit qu'en vérité, on doit savoir, quand par exemple, je vais aller encourager un juif à mettre les téfilines, je vais pas le convaincre qu'il doit devenir religieux. Moi, je pars de la base qu'il est déjà religieux. Il a déjà une neshama, et cette neshama veut déjà servir à Kadosh Baruch Hu. Seulement quoi? Il a un corps qui l'a bloqué un peu. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire parler son âme. Mais je suis pas en train de le transformer. Je suis en train, au contraire, de l'aider à retrouver sa vraie nature. Et c'est pour ça qu'on parle au Benoni. On lui dit, c'est vrai que des fois, tu te sens hypocrite, tu ouvres un livre, et tu dis, mais ça me parle pas, ce truc, laisse-moi tranquille avec ce truc-là, maintenant. Tu dis, tu sais à quoi ça sert? Je me mens, maintenant. Je mens à qui, maintenant? Je me mens à moi-même? Tu dis, non. Tu mens à personne. C'est un effort que tu fais pour essayer de redécouvrir la personne, de redécouvrir la personne que tu es. Et là, maintenant, il y a un troisième point qu'on va dire au Benoni. C'est quoi? C'est que, bon, tu as dit que le Benoni se focalise pas sur le résultat. D'accord. C'est comme dans l'éducation, en vérité. Tu te focalises sur le moment donné. Et maintenant, le résultat, comme Jackie l'a dit, est-ce qu'on peut être sûr des résultats? Non, on sait rien, les résultats. Moi, je me focalise sur le moment donné. Je fais ce que je peux, après, on verra après, Dieu, il va m'aider. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a dit, d'accord, essaye, bonsoir, de vivre au maximum ce que tu fais. Y a pas de problème. Et maintenant, des fois, ce qui arrive, c'est que j'essaye, je fais des efforts, et ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire, des fois, j'essaye de faire un effort pour me travailler sur mon caractère, pour me travailler, pour faire une mitzvah. Et j'essaye, on peut pas dire j'essaye pas. J'essaye pendant plusieurs fois, j'essaye. Et c'est difficile, je simule, je fais comme si que je suis dedans, etc. Et ça marche pas. Et là, je suis dégoûté parce que je me dis quoi? Ça veut dire que je perds mon temps. Des fois, on a l'impression qu'on perd son temps. Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment. Des fois, t'as l'impression que tu te bats pendant longtemps sur le même problème. Et à un moment, tu te dis, mais ça y est, je perds mon temps. Pourquoi tu veux que je me casse la tête? Et c'est là qu'il va expliquer aujourd'hui une notion très importante. Il va dire que le fait même de vouloir réparer un problème, c'est déjà considéré comme si tu l'as réparé. Très puissant ce qu'on va dire aujourd'hui. Et en fait, le Yetzer Hara, il attend quel instant? Il attend l'instant dans lequel tu vas lâcher, tu vas dire, ça y est, c'est trop dur pour moi. Il y a un exemple que j'avais lu une fois dans un CFR, je crois que c'est du rabbi précédent. Il dit que, alors je ne me rappelle plus exactement les détails, il disait que c'est comme, je crois que c'était avec l'araignée, voilà, d'accord? L'araignée. Donc l'araignée, elle tisse sa toile, d'accord? Et il y a une mouche, d'accord? Donc l'araignée avec sa toile, elle attrape une mouche. Mmh. Maintenant, quand on voit la mouche, elle se débat. Mmh. Mais regardez bien, qu'est-ce que vous allez remarquer? L'araignée, elle ne touche pas la mouche. Elle ne la touche pas, d'accord? Enfin, la mouche ou le moucheron, oui. Elle laisse se débattre dans la toile. Et lorsque la mouche finit, elle a plus force. Là, vous allez voir tout de suite, hein, mais c'est à tous les coups. L'araignée, elle, hop, et elle la mange. Enfin, elle la mange, elle fait ce qu'elle veut avec. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça, c'est un enseignement très important. C'est la même chose le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il attend qu'une chose. C'est que t'arrêtes de te battre. Et après, une fois que t'arrêtes de te battre, il va te becquer, il va te venger. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire ici, le troisième point qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le troisième cours du chapitre 16, toujours pour le Benoni. Le Benoni, il essaye, et ça marche pas. Et un peu plus, il dit, mais il y en a marre. Alors, il a envie de dire, bon, je suis pas fait pour ça. Ça y est. Je vais l'admettre, je suis pas fait pour ça. Eh ben, par exemple, s'il est coloreux, il dit, bah bon, je vais admettre, je serai coloreux toute ma vie. Si tu vas lâcher, c'est justement ce moment-là que le Yetzer Hara attendait. Dès qu'il va voir que t'as lâché, c'est fini, il va te manger après. C'est-à-dire que tant que tu te bats, le Yetzer Hara te fera rien. Il va te casser les pieds, il va t'embêter. Mais il peut pas te manger. Tant que tu es en train de te battre, tant que tu as de la résistance, c'est bon.
Tu es en train de dire qu'on est plus fort que le Yetzer Hara.
Bien sûr, on est plus fort que le Yetzer Hara. Mais justement, le problème, c'est que le Yetzer Hara, il fait tout pour te faire croire que tu es un incapable. Et quand je crois que je suis un incapable, là c'est fini, après il fait ce qu'il veut de moi. C'est un grand principe dans la vie. Ça veut dire ne jamais croire que je suis incapable. C'est à ce moment-là que la déprime arrive. Quand je crois que je suis incapable, c'est là que la déprime arrive. Tant que je me bats, ça marche. Même si, alors, quand on se bat, des fois on gagne, des fois on perd, mais tant que je me bats, ça marche. C'est la même chose avec le Yetzer Hara. Alors là, il va pousser encore plus loin ce que je viens de dire ici. Il va dire que le fait même d'avoir essayé de se battre contre le Yetzer Hara, même si j'ai pas gagné, Dieu va considérer comme si j'ai gagné. Parce qu'il a vu que j'ai essayé. Et il a vu que j'ai mis tout mon cœur. Ça veut dire que là, en vérité, on est en train de prendre, on faut prendre avec des pincettes ce que je suis en train de dire ici. Parce que sinon, c'est trop facile. D'accord? Dire, bon, enfin, j'ai essayé, ça suffit, ça n'a pas marché. Mais, d'un autre côté, on voit bien dans notre vie qu'il y a des fois des choses qu'on essaye, que ça marche pas. Et on manquait pas de bonne volonté. On avait beaucoup de bonne volonté. Alors quoi, toutes ces fois-là, est-ce qu'on va nous juger par rapport au résultat? Non. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Dieu ne juge pas une personne par rapport au résultat. Et d'ailleurs, c'est pas du tout comme c'est dans le cadre du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on juge les gens par rapport au résultat. C'est comme ça. On avait parlé, ça fait quelques semaines. On juge les gens dans le monde, ici, par rapport au résultat. Ça veut dire qu'une personne va dire, j'ai fait des efforts, j'ai essayé, etc. On n'en a rien à faire. Et Dieu, mais tu te rends pas compte, il y avait une panne de métro, il y avait ci, il y avait ça, j'ai galéré, je me suis... On n'en a rien à faire. On veut du résultat. T'as pas de résultat, eh ben, on te connaît pas. Et je veux dire plus que ça. La course vers le résultat peut être des fois tellement grave que des fois, par exemple, comme le résultat est le plus important, alors tu as par exemple quelqu'un qui vise le poste de quelqu'un qui est au-dessus de lui. J'ai vu ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le tuer, il va le déchirer, mais il n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il a dans la tête, c'est le résultat. C'est quoi le résultat? Je veux ce poste. Mais il y a quelqu'un à ce poste. Eh ben, moi, je veux ce poste. Donc, pour arriver à ce résultat, tous les moyens seront bons. Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans la Torah, c'est pas du tout comme ça. Dans la Torah, bien sûr qu'on attend des résultats. Mais le chemin pour arriver au résultat, comme il va expliquer ici, est tout aussi important et peut-être même plus important, comme on va expliquer aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que Dieu, quand une personne a fait un chemin, il a essayé de faire une mitzvah et il n'a pas réussi, et ben, comme on va voir tout de suite, et ben, quelque part, Dieu va lui considérer ça comme un mérite. Alors, on va voir ça dans les mots, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien développer. Donc, je suis à la page 219, en haut. Vezé Ramzou. C'est l'étude du 26 Tevet. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shekinah Vitvaro.
Amen.
Et on remercie Marcel pour la préparation.
Avec amour. Avec beauté, nous étonnons les bras.
Voilà. Zeramzu, Rabotenu, Zichronam Livracha. Voilà, on comprend avec ça à quoi nos sages faisaient allusion lorsqu'ils ont dit dans la Gemara, Kiddushin, ils ont dit Marsha Vatova, Akadosh Baruchu, Metzarfa, Lemaase. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marsha Vatova, une bonne pensée, Akadosh Baruchu, Metzarfa, Lemaase, Akadosh Baruchu la considère comme une action. Alors je vais expliquer de quoi elle parle la Gemara là-bas. De quoi elle parle la Gemara là-bas, dans le sens simple. D'abord, on va expliquer de quoi la Gemara elle parle. Et après, on va expliquer comment la Gemara Zaken va donner un nouveau sens à cette Gemara. La Gemara, elle te dit comme ça. Elle te dit, si une personne voulait faire une bonne action, et qu'il y a eu un cas de force majeure, il a commencé à faire, et hop, il y a un cas de force majeure, il n'a pas pu le faire. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il n'a pas pu faire la mitzvah, c'est pas parce qu'il n'avait pas la volonté, c'est parce que il y a eu un cas de force majeure. Alors, qu'est-ce que te dit la Gemara là-bas? La Gemara te dit, Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaase. Akadosh Baruch Hu va la considérer comme si, d'accord? Comme si c'était une action. Comme ça, c'est écrit.
Comme si ça a été fait.
Comme si ça a été fait. Alors justement, là-bas, la Gemara dit comme si que, non, elle dit pas comme si que c'est, enfin, on comprend comme si que ça a été fait. Par contre, dit la Gemara là-bas, si une personne, le contraire, il veut faire une avéra, il veut vraiment la faire l'avéra, il va pour faire l'avéra, il se casse le pied. Il va faire l'avéra. Est-ce que, à cause de quoi il n'a pas fait la Vera, ou bien plutôt grâce à quoi il n'a pas fait la Vera? Parce qu'il s'est cassé le pied. Mais est-ce que la Vera, il voulait la faire? Oui. Alors, est-ce que Dieu va considérer comme si qu'il a fait la Vera?
Non. Non. Pourquoi non?
Il n'a pas fait.
On l'a fait.
Ah. Pourquoi? Parce que là-bas, la Gemara dit que Meruba, Midat Tova, Midat Apuranu, je traduis, ça veut dire que la Midat du bien est toujours mieux que la Midat du mal. Dans le mal, Dieu, il te juge seulement par rapport à ce que tu as fait. Tu as fait une avéra, t'es puni, t'as pas fait, mais tu voulais faire, t'es pas puni. Mais dans le bien, hein, on te juge sur ce que tu as fait, et on te juge sur ce que tu voulais faire. Et même si tu voulais faire et tu n'as pas pu faire, eh ben, Dieu te le considère comme si tu as fait. Ça, c'est comme ça qu'on comprend la Gemara. D'accord? Très bien. D'accord. Mais en tout cas, dans les mitzvot, dans la majorité des mitzvot, c'est comme ça. Alors, il dit comme ça. Il pose une question très simple. Il dit, mais, a priori, qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Est-ce que la Gemara est en train de dire ici, que quand je voulais faire une mitzvah, Dieu va considérer comme si que ma mâche je l'ai fait, mais je l'ai pas fait. Ça veut dire quoi comme si que je l'ai fait? En plus, regardez les mots de la Gemara, on va traduire ensemble. D'accord? Alors, vous avez même la traduction en français, regardez. Qu'est-ce qui est écrit? Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaase. Comment ils ont traduit en français ici? Que le saint béni soit-il joint une bonne pensée à l'acte. Comment vous comprenez ce que je viens de dire?
Joint une bonne pensée.
Ça veut dire que la bonne pensée, elle précède l'acte.
Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Je vais donner un exemple. Je voulais aller à la synagogue un matin. Je me lève, d'accord? Il pleut à torrent, malaise, la voiture ne démarre pas. Bon, hop, d'accord, j'y arrive. Attends, doucement. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire? On a compris jusqu'à maintenant que quoi? Ça veut dire que Dieu te considère comme si que? Comme si que je suis allé à la synagogue?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans les mots? Regardez bien les mots de la Gemara. Vous avez un français?
Le
saint béni soit-il joint une bonne pensée à l'acte. Ça veut dire quoi, joindre une bonne pensée à l'acte?
Si t'as fait l'acte, ça veut dire...
Ça veut dire quoi? Comme il a dit Michael, il a fait remarquer à juste titre, ça veut dire quoi? Hein, Michael, répète la voix que tu nous as dit.
Tu as eu la pensée, donc c'est comme si tu
l'as fait. Ah non, c'est pas ce qui est écrit.
Ça veut dire que la pensée est de l'acte.
Ça veut dire que, je sais pas, que Dieu, il joint une bonne pensée à l'acte. On n'a pas dit que Dieu considère une bonne pensée comme un acte. On a dit Dieu, il joint la bonne pensée à l'acte. Comme si.
Il veut t'aider pour accomplir.
Exactement. Hazak. Comme si, que Dieu te dit, tu l'as pas fait, et je ne dirai pas que tu l'as fait parce que tu l'as pas fait, mais je vais joindre cette pensée à un acte, ça veut dire que quoi? Peut-être, ça veut dire que je vais t'aider la prochaine fois? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre ce que la Gemara est en train de dire ici? Alors, c'est ce qu'il va expliquer ici. Il va expliquer quelque chose de très puissant selon la Kabbalah. Il dit comme ça. Donc, d'abord, il pose la question qu'on vient de poser. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand la Gemara dit que Dieu... Donc, rappelez-vous, pour ceux qui viennent d'arriver, on est dans le troisième principe qu'on s'adresse au Benoni. Le Benoni, maintenant, il a essayé, il s'est pas focalisé sur le résultat, il essaye, il simule, mais concrètement, il n'y a pas de résultat. Il en a marre, il n'en peut plus. Il dit, mais c'est pas possible. Laissez-moi tranquille, je suis pas fait pour ça. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, non, continue. Le fait même que tu veux, c'est déjà bien. Alors, là, il reprend ce que la Gemara dit. La Gemara dit que Dieu, il va joindre une bonne pensée à une action. Et là, il pose la question qu'on vient de poser. Il dit, il va avaler les mémars, normalement. Comment les Chachamim auraient dû dire? Ils auraient dû dire, ma'ale alav akatuf ki ilu asa. Normalement, la phrase aurait dû dire que quand tu as eu une bonne pensée, on considère comme si que tu as fait l'action. Mais c'est pas ça ce que la Gemara a dit. La Gemara n'a pas dit, celui qui a eu une bonne pensée, on considère comme si qu'il a fait.
C'est normal.
On dit, celui qui a une bonne pensée, on va joindre cette pensée à l'action. Ça veut dire quoi, joindre la pensée à l'action? Et là, il va expliquer. Il dit comme ça. Il dit, et la haïnienne. Seulement, voilà comment on peut expliquer ça spirituellement. Kitril ou chimush et beit galut libo. Tu dis comme ça. Tu dis, tu sais, quand tu fais une mitzvah, il y a l'aspect sec de la mitzvah, l'aspect technique. Par exemple, d'accord? Je viens de donner l'exemple, par exemple, me lever le matin pour aller à la synagogue. Donc, c'est quoi l'aspect technique de la mitzvah? Ben, c'est me lever, d'accord? Prendre la voiture, venir à la synagogue. C'est l'aspect technique. C'est-à-dire, je me lève, je m'habille, je démarre la voiture, je prends, je roule la voiture, j'arrive, je me garde. Ça, c'est l'aspect technique. Mais derrière l'aspect technique, on va dire presque routinier. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect personnel. Ça veut dire que il y a un combat intérieur, je veux aller, je veux pas aller, j'ai la force, j'ai pas la force. Ça, c'est pas des choses techniques, c'est des choses, des sentiments personnels.
Oui, mais avant même de me lever, je l'ai.
Doucement. Quand je fais une mitzvah, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Je ne lui offre pas seulement l'acte sec, l'acte technique. Le fait que je me suis levé, mes pieds ont bougé et je suis arrivé à la synagogue. Quand je vais à la synagogue, j'offre beaucoup plus que ça à Dieu. J'offre ma volonté, j'offre le fait que j'aurais pu rester dormir, j'ai offert quelque chose, d'accord, de personnel. Quelque chose qui était à moi, je l'ai offert à Kadosh Baruch. Ça veut dire quoi? C'est vrai, il te dit comme ça. Il te dit, pour comprendre ce que la Gemara a dit, que Dieu y joint une bonne action, que Dieu y joint la bonne pensée à l'acte, ça veut dire qu'en vérité, Dieu ne veut pas se focaliser que sur l'action. Bien que l'action est très importante et que l'action est l'essentiel, mais on peut pas se focaliser que sur l'action. Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière l'action. D'accord? Il y a la kavana que la personne a eue. Alors c'est quoi la kavana? C'est quoi la définition de la kavana? Et c'est là on va rentrer en vérité dans un nouveau thème qu'on développera longuement par la suite, qui est finalement quel est le rôle de la kavana. Je vais donner un exemple très simple. On va donner un exemple concret. Imaginez par exemple le matin je mets mes téfilines. Deux options possibles. Première option possible, je mets les téfilines sans kavana, par routine. C'est-à-dire que j'ai même pas réalisé que je suis arrivé à la synagogue, j'ai mis les téfilines, je les ai enlevées, je me suis même pas rendu compte. Est-ce que j'ai fait la mitzvah?
Oui, bien
évidemment.
Sûr.
Oui, je le fais. Ben oui. D'accord. Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, oui, mais à part ça, il faut avoir la kavana. C'est quoi la kavana? La kavana, c'est que je vais réfléchir quand je mets les tefillines, au fait que je suis en train de soumettre mon cœur et mon esprit à Kadosh Baruch Hu. Très bien. Maintenant, il pose une question très simple. Il dit, mais finalement, quel est le rôle de la kavana? Ça veut dire, quand je fais une mitzvah, je donne quelque chose à Dieu. Quelle est la différence avec la kavana, sans la kavana? Est-ce que mon cadeau sera moins bon? Est-ce que mon cadeau sera pas cachère? Est-ce qu'il sera pas bon? Je veux dire, techniquement, comment ça marche? Alors, il donne une image très belle du Zohar. Le Zohar, il dit comme ça. Et là, les anciens du Tania certainement se rappellent, dans le premier cycle, il dit comme ça. Il dit que quand on fait une mitzvah, il y a l'acte de la mitzvah et il y a les ailes de la mitzvah. Ce qui fait voler la mitzvah. Ce qui te fait décoller. L'acte de la mitzvah, c'est l'acte technique. J'ai pris les tefillines, j'ai mis des lanières en cuir, je les ai mis sur moi. Ça, c'est l'acte technique. Mais il y a ce qui fait décoller la mitzvah. Qu'est-ce qui fait décoller la mitzvah? C'est dechilu ou chimu. C'est l'amour et la crainte. Ça veut dire, c'est le cœur que je vais mettre dans la mitzvah. Le Zohar a dit quelque chose de très simple. Il dit, évidemment, quand tu fais une mitzvah, si t'as pas eu la kavana, la mitzvah est là. Mais elle décolle pas. Elle reste bloquée. Pour qu'elle décolle, il faut que tu mettes ta kavana. Ta kavana, ça veut dire que toi, tu vas décoller. Que toi, tu vas sentir que tu aimes Dieu, que tu exprimes ton amour de Dieu, que tu exprimes ta crainte de Dieu, que toi, tu sens que tu vives la mitzvah, que tu vibres la mitzvah. Et là, quand tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, automatiquement, tu vas voir que la mitzvah, elle va commencer à décoller, que la mitzvah va t'emporter, la mitzvah va t'amener vers Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, écoutez bien. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Le bonhomme, il s'est levé le matin. Il avait envie de venir à la synagogue. On est d'accord. Ça veut dire que, pourquoi il a envie de venir à la synagogue? Bah, pour deux raisons possibles. Soit parce qu'il a peur de Kadosh Baruch Hu, il dit si je viens pas au minyan, c'est très grave. Soit parce qu'il aime Dieu et il a envie de prier. C'est très bien. C'est magnifique. Il est parti à la synagogue. D'accord? Il prend la route. il démarre la voiture, pac, elle démarre pas, elle a galère, elle se casse la figure, et qu'il crève un pneu, etc. Donc, l'acte technique de la mitzvah, est-ce qu'il l'a fait?
Oui.
Non,
non,
il l'a pas fait.
Bah,
mais par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la kavana.
Il avait l'intention de le faire.
Oui, mais la kavana sans la mitzvah, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, puisqu'il a déjà maintenant la kavana, ça veut dire qu'il voulait le faire, mais qu'il a pas pu le faire. Ça veut dire que la prochaine fois, quand il pourra le faire, ben, la moitié du travail est déjà faite. Parce que maintenant, il sait déjà, il a déjà envie de le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand le lendemain matin, maintenant, il va revouloir aller à la synagogue, il n'a pas besoin de redémarrer à zéro. Il a déjà été convaincu depuis ce matin qu'il veut aller à la synagogue. Il veut aller, il a tout fait pour y aller, mais il a eu une galère. Donc demain matin, hein, il n'a pas besoin de tout recommencer. Demain matin, finalement, il devra se concentrer que sur l'aspect technique. Parce que l'aspect Kavana, il l'a déjà. D'accord? Tu as raison. C'est vrai que ça peut changer. Ouais. Mais en général, quand tu veux faire quelque chose et que tu n'arrives pas, la fois d'après, t'as encore plus envie de le faire.
Mais quand tu fais de la Kavana,
tu dis là, je peux me faire avoir.
Ça devient une routine, on fait ça tous les jours, après on n'a plus de Kavana. On revient, c'est machinal, la tata, voilà.
Vous avez raison, c'est un vrai problème ça.
Ben voilà. Comment? Tu peux pas avoir le Kavana tous les jours, c'est impossible.
Pour avoir la Kavana tous les jours, il faut innover.
La tefila, c'est toujours la même. Tefilin, c'est toujours la même. Le geste est toujours la même. La voiture, le démarreur, c'est toujours le même.
Alors, vous avez raison. L'aspect technique reste toujours le même. Mais vous avez raison. C'est une question très bonne question que vous posez. L'aspect technique restera le même. Mais c'est un autre jour. Je suis une nouvelle personne et je peux le voir encore d'une autre manière. Il faut se rechercher constamment. D'accord? C'est comme, voilà, on est marié. Vous êtes marié, vous avez une femme. C'est la même femme depuis combien d'années?
Pas tous les jours. Mon cher Abenou.
Mais tous les jours, c'est une nouvelle femme. Non? C'est la même?
Ah ouais, c'est vrai, tous les jours, c'est une nouvelle
femme. Non,
tous les jours, il y a une nouvelle histoire.
Non, mais.
Façon de t'enregistrer, alors.
Simplement.
Non, elle est gentille.
Bah, oui. Oui.
Il se rattrape.
Oui.
On va y
arriver. Mais
le plus important, c'était l'action.
Tu as raison.
Et tu prenais un exemple d'un type qui était en prison. Le pauvre arrivait à Pessa. Il devait manger la matza. Il ne pouvait pas manger la matza pour une raison X ou pour une raison Y. Peu importe s'il n'y avait pas de matza. Mais dans sa tête, il a dit ça, là, c'est pas grave. Je lui demandais à Kadosh Baruch Hu que je vais faire comme ça avec du vent dans les mains. Il me compte la matza. Il me compte comme si j'ai fait la
matza. La mitzvah.
J'ai mangé la matza. Et à cette question, tu répondais, il n'a pas fait.
Il n'a pas fait la mitzvah, évidemment.
Alors,
parce que
dans quoi
l'essentiel est l'action.
D'accord. Alors, en quoi ce qu'on vient de dire?
C'est l'histoire du rabbi que tu as dans
le bon esprit. Seulement matériellement, il ne peut pas le faire. Alors, il n'y a pas d'histoire de démarreur. Demain, ça va changer. Demain, ça ne va pas changer.
Alors, tu as raison. C'est un très bon point ce que tu dis. Et surtout dans le monde de la chassidut du travail, on réfléchit beaucoup comme ça. Par exemple, je vois quelqu'un dans la rue. Je vais lui proposer de mettre les tefilines, même s'il ne comprend pas pourquoi il doit les mettre. Parce que l'essentiel, c'est l'action, comme tu dis justement. Mais là, il te prend ça d'un autre angle. Il te dit, c'est vrai que l'essentiel, c'est l'action. Maintenant, on s'adresse à une personne qui a essayé de le faire, mais qui n'a pas réussi. C'est l'histoire de chacun de nous. On a tous des challenges dans la vie qu'on essaye, d'accord, de surmonter. Et on n'arrive pas. Ça veut dire qu'on a la pensée, mais on n'a pas l'action. Je ne dis pas qu'on ne veut pas faire l'action. Je veux changer, mais je n'arrive pas. J'essaye et je n'arrive pas. Donc quand je vois que j'essaye et je n'arrive pas, alors qu'est-ce que je me dis? Je dis, j'ai perdu mon temps. Parce que puisqu'il n'y a pas eu de résultat, donc je perds mon temps. C'est là qu'il va te dire, non, tu n'as pas perdu ton temps. Pourquoi tu n'as pas perdu ton temps? C'est vrai que nous, on veut que tu atteignes à ton résultat. C'est clair, tout le monde veut que tu atteignes ton résultat. Mais même si tu n'as pas atteint ton résultat, le fait même que tu es en train de te travailler et d'essayer, ça veut dire que tu as créé en toi l'amour et la crainte de Dieu. Tu as déjà créé en toi la kavana. Ah, tu n'as pas réussi? Bon, tu n'as pas encore réussi. Mais ça veut dire que quand finalement, au bout de une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, tu vas réussir, la kavana, elle sera ultra puissante.
Mais tu l'as toujours la kavana.
Pas du tout. Amen. Je vous écoute. Tu commences à nous dire?
Ça, en fait, ça c'est pas une généralité.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce cas particulier? Ou le cas particulier d'une personne qui matériellement
dans ce cas-là, il n'a pas fait la mitzvah. Il passe la kavana, mais il n'a pas fait la mitzvah.
Alors qu'est-ce qu'on fait de cette phrase de la Gemara qui dit qu'on joint la.
Justement, c'est ça le piège, qu'il dit le Morazaka. Il dit, les gens, ils comprennent mal cette Gemara. Les gens, quand ils lisent cette Gemara, ils comprennent que quand tu as une bonne pensée, les gens, ils comprennent que ça veut dire que Dieu te considère ça comme une action. Il te dit, faux, c'est pas ça ce que la Gemara a dit. La Gemara n'a pas dit qu'on te considère ça comme une action. On te dit que quand tu as une bonne pensée, Dieu va joindre ça à une action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que tu réussiras à faire l'action, eh ben, la pensée que tu as eue maintenant sera associée à cette future action. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que le parcours que tu as fait, ça veut dire que quand, par exemple, une personne, tous les matins, il veut aller à la synagogue, et chaque fois, il met le réveil, etc., et chaque fois, son Yetzer il est plus fort que lui. Et une fois, au bout de 15 matins, enfin, il va se lever, il va aller à la synagogue. Dieu lui dit, je te compte pas que ce matin. Je compte tous les 15 matins où tu as essayé, où tu as montré que tu avais la kavana, tu avais l'envie de le faire, mais tu n'as pas réussi. Donc en vérité, moi, ce que je vais te compter maintenant, c'est une grande mitzvah qui a duré 15 jours. Parce que tu as essayé 15 fois. Chaque fois que tu as essayé, tu amplifies la kavana, tu amplifies l'envie.
Donc ça veut dire que ce type, un de ces jours, quand il va sortir de prison, la première fois qu'il va faire Pessah,
c'est comme s'il avait fait
pendant un jackpot, quoi.
Exactement. Il aura un Pessah de ouf. Comme ils disent. Bien sûr, c'est sûr ça. Mais c'est notre vie, ça. On essaye. Si on se basait que sur le résultat, combien de résultats déjà on a dans la vie?
Mais auparavant, on a... Wello, zéro.
Ah oui, tant que t'as pas fait.
Il n'y a rien au compteur. S'il est mort avant...
Il est mort avant et il redescend.
Comme ça. Un essai transformé.
Mais c'est parce qu'il faut agir, il faut l'action. Mais concrètement, quand une personne a essayé, qu'une fois il a fini par réussir, eh ben, Kadosh Baruch Hu lui considère, lui associe toutes les fois où il a essayé, il les associe avec cette fois-ci.
Parce qu'il...
Ça change pas. Même s'il est à nous, tu peux pas dire, c'est comme si qu'il a fait, il l'a pas fait.
Non,
force majeure.
C'est un cas de force majeure, mais dans un cas de force majeure, la Torah le rend pas tour.
Oui.
Donc toutes les marches à chavot que tu as, c'est que dalle, il est pas tour.
Non, c'est pas grave. Il te dit, c'est bien les marches à chavot que tu as.
Il est pas tour.
Mais c'est pas grave. Parce que.
Par exemple, je suis une femme, elle a pas le cru de mettre les filles, elle a la marche à chavot toute sa vie de mettre des filles.
Oui, mais le fait même qu'il a une marche à chavot, ça lui crée une kavana. Ça lui crée l'envie de la mitzvah. Et la prochaine fois qu'il sera assujetti à la mitzvah et qu'il la fera, eh ben la mitzvah aura beaucoup plus de poids. Parce qu'il a une grosse kavana derrière. Merci. Il y a un travail qui a été fait derrière. Ça veut dire qu'on ne peut pas analyser les mitzvahs uniquement sur le côté sec, technique, de « j'ai fait, j'ai pas fait ». Il y a un travail derrière. C'est ça notre vie. Si on devait analyser notre comportement seulement sur ce qu'on a fait, on n'a pas fait, attends, mais c'est pas comme ça qu'on analyse. Attends, dis-moi, j'ai essayé, des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché, j'ai réussi à 20%, à 30%, c'est difficile. Je peux pas m'estimer et que sur mes...
Essayer de faire une mitzvah dont t'es chayav, ça je comprends.
Oui.
Ça a une valeur. Mais essayer de faire quelque chose dont t'es même pas chayav, t'es même pas obligé de la faire, t'es pas tour complètement.
Il est pas tour, il est un cas de force majeure. Bon, enfin bon, c'est un autre débat, mais bon.
Une question. Mais, lundi, d'un point de vue à l'Afrique, il faut qu'il y ait l'action.
Évidemment. D'un point de vue halakhique, il n'y a pas d'action, il n'y a rien.
Donc la kavana n'a pas de place dans la halakha.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit les mitzvot, une mitzvah a besoin d'une kavana. Voilà. Mais si j'ai fait la mitzvah sans kavana, je suis quitte de la mitzvah pour la majorité des mitzvot. Sauf que, ce qui te dit ici, souvent dans notre vie, on n'a que la kavana sans la mitzvah. Exemple, j'essaie de travailler sur mon caractère, donc j'ai la kavana, je veux le faire, j'ai pas réussi. J'ai eu la kavana sans le résultat. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, c'est pas grave. Cette kavana sera jointe à la prochaine action. Parce que Dieu, il va analyser, à la fin du parcours, il va analyser toutes les fois où tu as essayé. Donc vous imaginez, quand on voit ça, on comprend qu'en vérité, c'est pas seulement la fois où j'ai réussi qu'on va me comptabiliser. On va me comptabiliser tout le parcours que j'ai utilisé pour arriver à ce moment-là. Donc moi, quand je lis ça, ça me console beaucoup. Parce que souvent dans la vie, on essaie de faire des choses et ça marche pas. Et quand tu te dis que tout le parcours que tu as fait, il est comptabilisé, tu dis, bon, bah ça va, c'est extraordinaire. En vérité, ça rejoint hein, le cours qu'on a fait, pour ceux qui étaient là, le cours qu'on a fait la semaine dernière.
La phase d'apprentissage.
D'accord ? On a dit que Dieu considère la phase d'apprentissage d'une mitzvah et la considère dans le cadre de la mitzvah. Par exemple, on a donné un exemple, parce que la majorité n'était pas là, donc je vais répéter. Par exemple, imaginez par exemple un bar mitzvah. Il est bar mitzvah à l'âge de 13 ans. Bon, alors en avance, ses parents lui disent, tu vas commencer à faire toutes les mitzvot. Bien sûr qu'elle a déjà commencé avant. Mais maintenant, il est assujetti, il a l'obligation de le faire. D'accord. Il va essayer de faire la mitzvah, mais concrètement, comme il démarre, alors, bon, des fois, ça ne va pas se passer comme il faut. Et des fois, il va un petit peu faire des écarts. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que le rabbi dit comme ça dans un commentaire. Il dit que, puisqu'il est en phase d'apprentissage, tant qu'il est en phase d'apprentissage, ce n'est pas considéré comme une avéra. On dit pas qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. Mais c'est pas considéré comme une avéra, parce que le chemin pour une mitzvah, ça fait partie de la mitzvah aussi. Et Dieu, quand il a donné une mitzvah, il sait qu'on n'est pas des anges, et il sait que ça prend du temps. Donc le parcours pour arriver à une mitzvah est considéré aussi comme faisant partie de la mitzvah. C'est la même chose. Dieu nous demande des mitzvot. Il donne 613 mitzvot. Il sait qu'on n'est pas des anges. Il nous connaît. Il nous connaît mieux que nous, puisque c'est notre créateur. Qui mieux que le créateur d'une machine connaît la machine? Dieu, il nous connaît mieux que nous. Il sait très bien. C'est-à-dire, quand moi je dis c'est difficile, Dieu, il sait encore mieux que moi en quoi c'est difficile. Seulement quoi? Dieu m'a pas pris pour un ange. Donc quand Dieu m'a donné une mitzvah, Dieu savait très bien que c'était difficile. Et Dieu sait très bien que je vais essayer. Et c'est pour ça que Dieu te dit, sache que chaque fois que tu as essayé, tout le parcours que tu as utilisé, chaque fois que tu t'es levé, tu t'es réessayé, etc., eh ben, sache que tout ça te sera comptabilisé quand tu auras terminé la mitzvah, te sera comptabilisé comme une kavana. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mitzvah, quand tu l'auras essayé 10 fois et que ça n'a pas marché, que la 10e fois tu as réussi, la 10e fois ta mitzvah, tu vas sentir comment elle va décoller. Parce que tu sens que tu vibres la mitzvah. Mais si dès le départ tu avais réussi du premier coup, tu vivras pas la mitzvah. C'est pour ça qu'il s'adresse ici à ce Benoni. Il lui dit, sache que quelque part, j'ai pas envie de dire que c'est bien, mais tu as presque un srout, un mérite dans le fait que t'as pas réussi. Vous savez, c'est comme un ressort. Plus tu tires, et plus après quand il part, il explose. Donc c'est ça notre vie en vérité. Dans notre vie, on essaye. Mais chaque fois que tu essayes, t'arrives pas. Tu tires sur un ressort. Tu tires. Et à un moment, pac, ça décolle. Et quand ça décolle, ça explose. Ça, c'est notre vie. Et c'est pour ça, on voit ça souvent, par exemple, chez les Baal et Teshuvah. Des gens qui, toute leur vie, se travaillent. Et tout d'un coup, pac, du jour au lendemain, ils font Teshuvah. Tu crois que ça s'est passé du jour au lendemain? C'est un travail d'une vie, ça. Ça fait des années déjà qu'ils se travaillent. Seulement un jour, le ressort a lâché. Et là, ils ont décidé de sauter. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Et là, à Inyan, vous avez dans les mots, et là, à Inyan, je suis en bas de la page 219. Et là, à Inyan, l'explication est, pourquoi la Gemara n'a pas dit que Dieu considère ça? Dieu considère une pensée comme une bonne action. Il n'a pas dit ça. La Gemara a dit que Dieu va joindre une bonne pensée à une action. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ke'atrilu chimu shebeit galut libo em amitlapshim ma'asa mitzvot. L'amour et la crainte, qui sont comme les ailes de l'oiseau. Hein, vous rappelez, petit oiseau, voilà, bon. Tu peux pas voler. Donc, ke'atrilu chimu shebeit galut libo. C'était la blague du premier, la première série du cours. Donc, qui trilou, chimou, shibit, galout, libo, aime à mitlapshim, ma samizot, la chayotan, le fachalela. Je traduis. Il te dit, qu'est-ce qui fait décoller une mitzvah? Ce qui fait décoller une mitzvah, c'est la passion. Qu'est-ce qui te fait la passion? La passion, c'est l'amour et la crainte que j'ai eu dans la mitzvah. L'amour d'Akadash Baruch Hu et la crainte d'Akadash Baruch Hu que j'ai investi dans la mitzvah. Ça, c'est la kavana. Or, qui te dit ici, qui a lève ou gam ken chumri? Parce que le cœur est aussi physique. Kishar evarim shem kleamase. Et là, שהוא פנימי וחיות להם. ולכן יכול להתלבש בהם, להיות להם גדפים לעל אותם. Il dit comme ça. Là, il ouvre une petite parenthèse. Il dit, je vous pose la question, je vous dis, d'après vous, l'amour et la crainte de Dieu se trouvent où dans mon corps?
Dans le cœur.
Pourquoi dans le cœur?
C'est le cœur des sentiments.
Et pourquoi pas dans la tête? Pourquoi pas dans la main? Pourquoi pas dans les pieds?
Parce que l'amour et la crainte, ce sont des sentiments.
Pourquoi? Mais pourquoi ça doit passer par le cœur? Non, je parle du cœur physique. Le cœur physique. Pourquoi ça doit passer par le cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur?
C'est chaud.
D'accord? Alors, on dit comme ça. C'est écrit comme ça dans la Kabbalah. La Kabbalah, elle dit comme ça. La Kabbalah, elle dit que quand il y a une énergie de la Neshama, l'énergie de la Neshama doit intégrer le membre qui correspond le mieux à l'énergie qu'il veut exprimer. Exemple. J'explique ce que je veux dire. Par exemple, lorsqu'une personne veut voir, pourquoi je vois? Pourquoi une personne qui est vivante voit et une personne qui est morte ne voit pas? Il y a une seconde, il était vivant, il voyait. Maintenant, il est mort, il ne voit plus. Son œil est toujours là. Pourquoi il ne voit plus? Parce qu'il y a deux choses. Il y a le membre qui s'appelle l'œil qui voit et il y a l'aneshama qui envoie une énergie. L'aneshama qui envoie une énergie, il y a une énergie spécifique pour qui est dédiée à la vue. Il y a une énergie spécifique qui est dédiée au toucher, qui est dédiée à lui, qui est dédiée à tout. D'accord? Exactement. Non, ce n'est pas un sixième. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est dédiée pour chaque chose. D'accord? Et des fois, qu'est-ce qui se passe malheureusement? Des fois, le membre physiquement est en bonne santé, et pourtant la personne ne voit pas. Vous avez parlé de non-voyants, qui ont un membre qui est là, genre l'œil il est là, il est bon, mais pourtant il voit pas. Il n'y a pas d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'aneshama n'est pas passée dans le membre.
Non, parce que le nerf optique il est malade.
Donc, non, bah, attendez, pas du tout, pas spécialement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce que je vais expliquer ici, d'accord? Là, je referme la parenthèse tout de suite. Ça veut dire que quand Dieu il envoie une énergie par la Neshama, l'énergie va s'habiller dans le membre qui correspond le plus à l'énergie qu'on va envoyer. Donc l'énergie de la vision, elle va passer dans l'œil. L'énergie de lui, elle va passer dans l'oreille. Alors pareil. Maintenant, l'énergie de l'amour et la crainte. C'est quoi l'amour et la crainte? L'amour et la crainte, c'est lié à la chaleur. C'est lié à la chaleur d'une personne. C'est ce qui fait la passion. Or, quel est le membre le plus chaud qu'il y a dans le corps? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de plus chaud? Ce qu'il y a de plus chaud dans le corps, c'est le sang. Or, quel est le centre du sang? Le quartier général du sang, c'est quoi? C'est le cœur. Voilà pourquoi quand on te dit que les sentiments se trouvent dans le cœur, c'est pas seulement une image. Ça se passe mamash comme ça. D'après la Chassidoute, d'après la Kabbalah, on dit que ça se passe mamash comme ça, que les sentiments se trouvent dans le cœur. C'est pas seulement une idée. Je dis non, mais c'est faux, en vérité, les sentiments se trouvent partout. Non, non, non. Les sentiments passent d'abord par le cœur. Parce que comme le cœur, c'est lui qui pompe le sang, et que le sang est synonyme de chaleur, et qu'un sentiment est aussi quelque chose de chaud, donc c'est pour ça que le sentiment va intégrer le cœur. Voilà, ça, c'est juste une petite parenthèse. Si vous n'avez pas compris la dernière minute de ce que je viens de dire, c'est pas la fin du monde. Alors, juste pour expliquer pourquoi les sentiments passent par le cœur. Alors, ar atrilu chimu shebitvunot libo moro vetalumot libo anal gavu dachem le mala mala miprinat amase veiyef shar lahem להתלבש בבחינת מסע מצוות, להיות להם בבחינת מוכין וחיות להלטה לפחללה, אם לא שהקדוש ברוך הוא מצרפן ומחברן לבחינת המעשה. Voilà, ça c'est très puissant ce qu'il va dire ici. Il dit des fois, et ça c'est très important, il dit finalement, on va réfléchir un petit peu. Quand on fait une mitzvah, il y a le côté technique de la mitzvah, on va reprendre les téfilines. Qu'est-ce que je mets quand on est téfilines? Vas-y Ben, qu'est-ce que je mets quand on est téfilines? Qu'est-ce que je mets sur mon bras? Quand je mets les téfilines, qu'est-ce que je mets?
Le parchemin.
Je mets des lanières en cuir. On est d'accord? C'est des lanières en cuir. Quel est le sens profond de la mitzvah? D'accord. Le sens profond de la mitzvah, c'est que je vais soumettre mon cœur, je vais soumettre mon esprit. Des fois, on peut sentir qu'il y a un décalage entre le sens profond de la mitzvah et l'aspect technique de la mitzvah. L'aspect technique de la mitzvah, tu prends un morceau de cuir. Le sens profond, je soumets mon cœur. Je me dis, mais quel rapport? Quel rapport entre les deux? Quel rapport entre... à la limite, j'ai envie de dire, mais pourquoi tu mets pourquoi t'as besoin de ce morceau de cuir là? Pourquoi dès le départ, on ne dit pas, bon, bah, pense à Dieu et c'est tout? Tu dis, pourquoi tu mets les tefilines? Parce qu'avec ça, tu vas soumettre ton cœur. J'ai besoin d'un morceau de cuir pour ça? Ah, mais ce qui veut dire, c'est quelque chose de très puissant. Il te dit qu'en vérité, quand on réfléchit, en vérité, il y a un décalage et on ne comprend pas comment c'est possible qu'en faisant un acte physique, ça représente des choses très profondes. Alors qu'en vérité, il n'y a aucun rapport. Je ne comprends pas le rapport. Quel rapport? Parce que j'ai mis un morceau de cuir. Ça veut rien dire, c'est un morceau de cuir.
Parce que ça devient un symbole.
Seulement quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est évident que même si l'essentiel, c'est l'action, mais c'est un srout que Kadosh Baruch Hu nous donne. C'est un srout que Kadosh Baruch Hu nous donne. Que Dieu te dit, toi tu fais la kavana que tu as, et moi je vais te donner une beracha que cette kavana va être associée à un acte. Ça veut dire quoi? Toi tu vas mettre un morceau de cuir, et moi je m'occupe que ce morceau de cuir, et ben avec ça tu soumets ton cœur. Tu vas dire, mais je comprends pas, c'est un morceau de cuir, ça m'intéresse pas. Dieu te dit, c'est pas ton problème, c'est mon problème. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ce que je veux dire ici, ça veut dire que, ce qu'il veut dire ici, c'est que quand on te dit qu'une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu la joint à l'action, ça veut dire qu'il te dit, sache que si on te dit que quand tu fais une mitzvah, un acte de la mitzvah, eh ben c'est extraordinaire, sache que c'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu a donné, et que c'est pas normal. Parce que l'acte de la mitzvah n'a aucun rapport avec le sens profond de la mitzvah. Il y a un décalage, ça n'a rien à voir. Prenez n'importe quelle mitzvah. D'accord? Je donne un autre exemple. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple?
D'accord?
Très bien. La mezouza. C'est quoi la mezouza? D'accord, je donne des exemples concrets, que j'ai devant moi. C'est quoi la mezouza? Allez, messieurs, éteignez les portables. Ça fait 5e portable qu'ils ont aujourd'hui.
Donc, t'as besoin pas,
t'as non, juste personne. Alors. Alors. Non, tu vois, le mien, il est en mode avion. Alors.
C'est la protection.
Alors, c'est quoi la mezouza? Non, mais attendez. D'accord, non, je présente. C'est quoi la mezouza?
La protection.
Dans la mezouza, il y a un parchemin dans lequel c'est écrit par un chat, d'accord, le schéma. Et on te dit, tu mets la mezouza, c'est une protection. Très bien. Pourquoi c'est une protection? Quel rapport? Pourquoi il y a besoin d'un parchemin en cuir qui soit posé ici pour que c'est la protection? Alors on va te dire, parce que dans la mezouza, il y a un texte. Ce texte, c'est un texte de la Torah. D'accord? Et toi, quand tu vas passer devant la mezouza, tu vas te rappeler que Dieu est présent dans ta maison, donc ça protège ta maison. Ouais, d'accord. Bon, le cheminement, il est très long. Moi, quand j'ai mis la mezouza, j'ai oublié que j'ai mis la mezouza chez moi à la maison. Alors, je me pose la question encore une fois, la même question que je viens de poser. Des fois, on a l'impression qu'il y a un décalage entre l'acte technique et le sens de la mitzvah. À la limite, à tel point, on comprend pourquoi il y a des gens, hein, quand tu vas leur dire, est-ce que tu veux mettre tes tefilines, il va dire, je suis juif dans le cœur. Il le pense vraiment. Parce qu'il dit, mais il sent pas qu'un morceau de cuir, ça lui parle pas, ça l'intéresse pas. C'est ça ce qu'il veut te dire ici. Il te dit ici, que ma chashava tova akadosh baruch hu metzarfa lemaase. On répond à ce juif. On lui dit, sache que c'est Dieu qui fait en sorte que la bonne pensée est liée à l'acte. Que l'acte que tu vas faire, que tu as l'impression que c'est un acte technique, eh ben, c'est Dieu qui fait en sorte que cet acte technique est lié à ta pensée, est lié à tout le travail intérieur que tu as fait. Seulement. Pour réaliser l'ampleur d'une mitzvah, il doit y avoir un travail de réflexion. Je vais reprendre maintenant l'exemple des téfilines. C'est un peu abstrait ce qu'on dit aujourd'hui, mais on va essayer d'expliquer. Je vais reprendre l'exemple des téfilines. Évidemment, comme tu as dit, Michael, celui qui a mis les téfilines, et que, il n'a rien ressenti, il n'a pas eu de kavana, il n'a rien fait du tout. Il a fait la mitzvah. Mais on lui dit, Dieu, il t'a donné un grand cadeau. Il t'a dit que quand tu fais les tefillin, t'as quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Mais toi, tu t'en rends même pas compte de ce qui se passe. Parce que tu n'as pas réfléchi. Alors que quand tu réfléchis à ce qui se passe, ta mitzvah, elle prend complètement une autre dimension.
Mais même quand
ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'en vérité, on ne devrait même pas nous demander d'avoir la kavana dans une mitzvah. Ça devrait être normal. Vous savez à quoi ça ressemble sinon? C'est comme si, par exemple, t'as quelqu'un qui a un anniversaire, votre femme qui a un anniversaire, tu vas lui amener un bouquet de fleurs, sans penser que t'es en train d'amener un bouquet de fleurs et sans penser que c'est ta femme. Tu lui as amené le bouquet de fleurs. D'accord? Tu lui as amené le bouquet de fleurs. D'accord? Ça veut dire, voilà, d'accord? Dans ta tête, machinalement, tu as une boutique, tu penses même pas que c'est ta femme, que c'est son anniversaire, etc. Machinalement, t'achètes, tu donnes. Alors, on va te dire, bon, concrètement, le bouquet de fleurs, elle l'a reçu.
Bah, ça fait plaisir.
Parce que si le mari va raconter à sa femme, tu sais, je voulais vraiment te l'acheter le bouquet de fleurs. Enfin, elle va dire, le bouquet de fleurs, il est pas là. D'accord? Mais d'un autre côté, maintenant que tu as amené le bouquet de fleurs, c'est dommage. Pourquoi tu profites pas du moment? Le bonhomme, il est là, il a mis le bouquet de fleurs, mais il le jette comme ça. Mais attends, t'as déjà fait l'effort. T'as partagé le bouquet. T'as investi, t'as mis de l'argent, t'as mis du temps. Prends le temps maintenant de vivre ce que tu fais. C'est dommage, tout est là. Pourquoi tu pars? C'est la même chose. Quand tu fais une mitzvah. Je fais la mitzvah, tu l'as fait déjà la mitzvah. De toute façon, tu l'as fait déjà la mitzvah. Ça y est, tu l'as fait la mitzvah. Je vais mettre les tefillines. Mais quand je vais mettre les tefillines, il y a des choses extraordinaires qui se passent. D'accord, t'inquiète pas, c'est ok. Le bouquet de fleurs, on l'a reçu. Dieu, on lui a donné les tefillines. Mais tu les mets déjà les tefillines. Pourquoi tu prends pas du temps pour réfléchir qu'est-ce qui se passe quand tu mets les tefillines? D'accord? Pourquoi tu prends pas le temps de réfléchir qu'est-ce qui se passe quand tu mets les tefillines? Comment, quand tu mets les tefillines, tu vas soumettre ton cœur, tu vas soumettre ton esprit à Kadosh Baruch Hu? Ça veut dire qu'en vérité, si on peut résumer en un mot ce qu'on est en train de dire ici, on devrait même pas nous demander d'avoir la kavana. Ça devrait être normal qu'on doit avoir la kavana. C'est normal. Parce que c'est pas un service que je rends à Kadosh Baruch Hu. Au contraire, c'est lui qui m'a rendu un service de me laisser faire une mitzvah. Et ça doit être un bonheur pour moi d'essayer de comprendre ce que je suis en train de faire. Il n'y a même pas besoin de me le demander. Avec ça, on comprend maintenant pourquoi on s'adresse justement à ce juif qui n'arrête pas d'essayer de faire la mitzvot et qui n'arrive pas. On lui dit, sois content. Pourquoi sois content? Parce qu'il y a des gens que, en vérité, ton défaut va devenir ta qualité. C'est ça où je veux en arriver. Ton défaut que tu essayes de faire la mitzvot et tu n'y arrives pas, eh ben, ça va devenir ta qualité. Pourquoi? Il y a des gens, dès qu'ils essayent de faire la mitzvah, ils arrivent tout de suite. Est-ce que cette personne-là qui a essayé et qui a réussi tout de suite, est-ce qu'il a la kavana de la mitzvah? Probablement non, il n'aura pas la kavana de la mitzvah, il aura une kavana basique. Pourquoi? Parce que comme la mitzvah, il a réussi à la faire tout de suite, donc il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais toi, comme la mitzvah était dure pour toi, que tu as dû te travailler, que tu as dû bouquiner sur la mitzvah, que tu as dû chercher, que tu as dû te casser la tête, quand tu fais la mitzvah après, là tu la sens la mitzvah, là tu sens que tu as fait quelque chose. C'est pour ça, on s'adresse au Benoni, on lui dit, sache que par les bâtons que Dieu t'a mis dans les roues, eh ben en vérité, quelque part, il t'a rendu service. C'est qu'il te donne la possibilité d'apprécier la mitzvah.
Enfin,
et je vais vous dire plus que ça.
Alors,
j'avais lu une fois un commentaire qui disait comme ça. Mais attention, ça prend avec des grandes pincettes ce que je veux dire. J'avais lu un commentaire qui disait comme ça. Qui disait, on sait très bien que Dieu maîtrise tout ce qu'il y a dans le monde. D'accord? Maîtrise tout ce qu'il y a dans le monde. Et que, attends une seconde, tout ce qui se passe dans le monde donc correspond à une certaine volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comment ça se fait que Dieu me laisse faire une avéra? On est obligé de dire que Dieu, il doit avoir un intérêt quelque part de cet avéra. D'accord, le libre arbitre, c'est la raison pour laquelle il me laisse le faire.
On a dit que c'était pour casser des robots.
D'accord, j'ai compris. Mais concrètement, on est obligé de dire que Dieu a un intérêt que je fasse une avéra.
Bien sûr.
Parce que... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, est-ce que d'après vous, Adam Harishon avait une possibilité de ne pas consommer le fruit défendu?
Non. Parce que c'était prévu qu'il le foute dehors, déjà, dès le départ.
Non, honnêtement. Je pose une question, je dis d'après vous, est-ce qu'on peut imaginer l'histoire sans que Adam Harishon mange le fruit défendu? S'il ne mange pas le fruit défendu, ça veut dire quoi?
Non.
Ça veut dire que tu zappes toute la Torah. Parce qu'il n'y a pas de mortalité.
Bah, bien sûr.
Donc c'est Machiach directement. Donc toute la Torah qui nous amène à Machiach n'existe plus. Il n'y a pas de sortie d'Égypte, il n'y a pas d'entrée en Égypte. D'accord?
Comme on l'avait écrit avant.
Alors, le roi David l'a dit. Le roi David dit clairement. Il dit en vérité à Kadosh Baruch Hu, il lui dit Nora Alila Albena Adam. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit en vérité c'est un complot que tu as fait sur Adam Harishon. Ça veut dire en vérité il devait fauter.
Mais bien sûr.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, écoutez bien, là c'est la suite de ce qu'on est en train de dire ici, que même quand on fait une avéra, je dis pas que c'est bien de faire une avéra, c'est assourd de faire une avéra. Mais le fait que Dieu m'a laissé faire la avéra et que maintenant je l'ai déjà faite, bon maintenant c'est fait, maintenant ça est fini, c'est passé, ça fait 2 années, c'est passé. Ça veut dire que Dieu pense que même d'une avéra il y a un intérêt à tirer. Un intérêt d'un autre type, il y a un intérêt. C'est quoi l'intérêt qui est attiré? L'intérêt qui est attiré, ça c'est un mot du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit que la teshuvah que tu vas faire après une avéra va t'amener à un niveau que tu n'aurais jamais pu atteindre si tu n'avais pas fait l'avéra. Et avec ça, le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Il dit, comment on peut comprendre ce que la Gemara nous dit, que quand on fait une bonne teshuva, les averot se transforment en mitzvot. Mitzvot. Comment c'est possible? Le bonhomme, il a fait des averot, on lui dit, ça se transforme en mitzvot.
Ah ouais, mais voilà, il vient de
Alors, le Baal Shem Tov, il dit, c'est très simple. Il dit, parce que s'il n'y avait pas la avera, jamais tu aurais fait une teshuva avec un tel cœur, avec une telle passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais une mitzvah, je ne dois pas compter que la mitzvah. Je dois compter ce qui m'a amené à la mitzvah. Même les averot qui m'ont amené à la mitzvah, j'ai poussé un peu plus loin là. Même les averot qui m'ont amené à la mitzvah, même les fois où j'ai trébuché, j'ai pas réussi à faire la mitzvah, eh ben chacune de ces fois où j'ai trébuché, ça m'a amené et ça me rajoute du mérite et de la kavana. Ça me rajoute du mérite et de la kavana dans la mitzvah.
Par contre, le mal que la avera a fait, ça te fait mal en
l'air. Ah d'accord, moi je parle pour moi. Pour moi. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
Non. Oui. Mais cette façon de dire la Avera m'a amené, grâce à la Avera, m'a amené à faire une bonne teshuvah,
oui.
C'est dangereux aussi de dire
c'est
ça.
C'est très dangereux.
Ah, on est d'accord.
Je suis d'accord. J'ai dit qu'il faut prendre avec des pinces. Mais je pense qu'on a un cours ici, celui qui veut un cours de Tania, c'est-à-dire qu'on a affaire à les initiés. C'est pas un cours qu'on fait Shabbat après-midi, c'est un cours à des initiés.
À voilà. Des professionnels.
Donc,
un public est verti.
Certainement. C'est sûr.
Ouais,
c'est sûr qu'il y a un intérêt d'Akadosh Baruch Hu. Yerida et Tzorech Aliyah. C'est sûr qu'il y a un intérêt, sinon Dieu ne m'aurait pas laissé faire. Je vous posais une question. Comment ça se fait que Dieu me laisse fauter? Il aurait pu faire que je me casse la figure en allant.
Mais des fois, une mitzvah peut devenir une avéra.
Ça c'est vrai, vous avez raison. Par exemple.
Par exemple, je vais vous dire un truc. Vous rendez un service à quelqu'un, et puis vous cassez tellement les pieds que vous aurez dit que j'aurais pas dû faire cette mitzvah.
Donc tu te mets à l'insulter, tu te mets à bon, voilà. D'accord. Alors, j'ai compris. Concrètement, moi je voulais faire la mitzvah et j'ai mis mon cœur dedans. Même si cette fois-ci je l'ai raté, mais puisque je voulais la faire, donc la kavana était déjà là. Ça veut dire que chaque fois que je vais essayer de faire une mitzvah et que je réussis pas, j'amplifie la kavana, je comprends encore plus l'importance de la chose. Plus une chose me vient difficilement et plus je comprends qu'elle est importante. Donc plus une chose me vient difficilement et plus je comprends qu'elle est importante. Je me dis, si ça vient tellement difficilement, c'est que ça donne quelque chose d'important. Enfin, si bien facilement,
plus j'ai du
d'accord.
Mérite, plus j'ai du mérite.
Non, c'est pas seulement ça. C'est ça. Vous avez remarqué, il a pas du tout parlé de mérite ici.
Ah ouais, mais
il parle pas de ça. Il parle pas du tout de ça. C'est pas notre but. On parle pas de mérite, là. Le mérite, c'est Dieu qui regarde ça. C'est pas de ça. Là, on s'adresse à une personne, d'accord, comme moi et vous. Quelqu'un qui n'est pas un tzaddique, qui essaie de bien faire les choses et que concrètement, 9 fois sur 10, ça plante. Et il est dégoûté, il en a marre. Il dit, mais pourquoi ça plante 9 fois sur 10? Alors j'arrête, c'est fini, faut changer, on va chercher autre chose. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui dit, c'est pas 9 fois sur 10 ça plante. C'est une longue fois et ça a marché. Et chaque fois que t'as essayé et que t'as pas marché, maintenant t'as essayé de tout ton cœur. J'ai pas que t'as essayé en disant juste pour la forme. T'as essayé, ça a pas marché. Et ben chaque fois ça amplifie la kavana. C'est-à-dire qu'à la fin, lorsque tu vas réussir, c'est là que tu vas apprécier l'importance. Voilà pourquoi, quand une personne, je juste termine, voilà pourquoi la Gemara te dit que lorsqu'une personne a une bonne pensée, ben Dieu va joindre cette pensée à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir essayé, Dieu te donne la bracha que tu finiras par réussir. Joins la pensée à l'action. Tu comprends, Michael? Ça veut dire qu'il te donne la bracha que tu finiras par réussir, et là, il te comptabilisera tout le temps que tu as travaillé, que tu t'es cassé la tête pour réussir. Ça veut dire que vous avez bien compris que le travail d'un Bédoni ne peut pas se calculer sur un jour, sur une heure. C'est un travail d'une vie. Et je veux dire, même, c'est même pas une vie, même plusieurs vies. Parce qu'on est tous des gilgulim, on est tous des réincarnations. C'est-à-dire que pour en vérité comprendre l'ampleur du travail que je fais aujourd'hui, il faudra en vérité revenir jusqu'à ma première réincarnation. Je sais même pas combien j'en ai eu. Il peut en avoir 2, 3, 4, 5, 10. Parce que chaque fois qu'on redescend, d'accord? Chaque fois qu'on redescend, il y a un travail à faire. Et pour comprendre qu'est-ce que j'ai rajouté, il faut voir qu'est-ce qu'il a fait celui d'avant. D'accord? J'en sais rien. Voilà. Ça c'est en moi. Dans ma neshama. Tu comprends? Ça veut dire que quand moi je viens par exemple et je vois que je bute sur quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Peut-être que mon gilgul d'avant il butait là sur la même chose. Parce que sinon pourquoi je bute sur ça moi? Si je suis redescendu sur terre et que je bute sur ça, c'est que lui probablement avant il butait sur ça aussi. Et tu t'imagines que chaque fois tu butes, à la fin quand tu réussis, eh ben Dieu dit, tu vois, ça fait déjà des millénaires qu'on envoie une neshama sur terre, ma neshama, et qu'elle essaye de faire ça, et au bout de 15 fois qu'elle est descendue sur terre, et ben tel jour, telle date, telle heure, Mendia Soulin a réussi à le faire. Mazal Tov dans le ciel, c'est extraordinaire, on fait la fête. Tu t'imagines? Mais c'est pas juste une fois j'ai réussi, je suis dégoûté que j'ai raté jusqu'à maintenant. D'accord? Mais c'est vrai. Ça veut dire qu'en vérité, on peut pas, on est obligé de prendre beaucoup, beaucoup de recul et de comprendre que chaque fois que je rate, que je n'arrive pas, eh ben, ça va amplifier la kavana. Et la kavana, c'est très, très, très important parce que c'est ce qui permet à la musée de décoller. Alors, je vois dans vos yeux qu'il y a plusieurs questions, donc fais une pause question.
Pour revenir à ta vie, je veux pousser un peu plus loin.
Oui.
Alors, bah, je ne sais pas trop comprendre. Quelqu'un qui fait des avérot pour arriver à faire une mitzvah.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, quelqu'un qui fait une, quelqu'un qui fait d'avérot, parce qu'il a fait d'avérot, et un jour, il fait teshuvah. Il a pas fait d'avérot en comptant sur la teshuvah. Il a fait d'avérot et il fait teshuvah. Et quand il fait teshuvah, la Gemara te dit que quand il fait teshuvah par amour, alors ces avérot lui sont comptabilisés comme des mitzvot. Comment c'est possible? Dis à la limite qu'on lui efface l'avérot, qu'on ne lui compte pas l'avérot. Mais comment on peut comptabiliser l'avérot comme une mitzvah? Et c'est là que j'ai expliqué, au nom du Baal Shem Tov, que comme l'avéra, plus l'avéra était grande et plus l'envie de teshuvah était forte. Or, la teshuvah, d'accord, je ne l'aurais jamais eu si j'avais pas fait la vera. Donc ça veut dire que le retour extraordinaire que j'ai vers un Kadosh Baruch Hu, il est grâce à la vera.
Plus t'en amènes et plus on les mange.
Ah ouais, non, mais il le gâte, hein, il gâte le monsieur.
Il mérite. Jamais j'aurais pu la faire.
T'as vu, il te gâte, hein, monsieur Cohen, hein. C'est Allah fait que Metzel, le chien.
Comment peut le transformer?
Ah là là, tu dois avoir faim, là.
Il dit qu'en vérité, elle se transforme en mitzvah parce qu'elle m'aide à décoller comme une mitzvah.
David,
la vera peut t'aider à décoller puisqu'elle te dérange.
David, il les vend, lui, il les mange pas, il les vend.
Oui.
Pourquoi? En fait, après la mort, soit il va au Galénan, soit au Guéhenam. Elle va où après si elle redescend? Elle est où pendant ce temps? Et au Galénan, après Hachem de
non, Galénan, le Galénum, c'est quand ça redescend pas.
Ah, alors où elle est dans le monde?
Eh ben, elle redescend, dans un autre corps.
Mais elle est où pendant ce temps? Directement, elle ressort?
Alors, des fois, il passe un petit séjour en offre, il redescend. Alors, il y a un jugement, etc. Il redescend, oui. On est tous des Gilgoulim aujourd'hui. Tous,
certains. Quelqu'un qui va après au Galénan, c'est
qu'il
redescend pas.
Ah oui, c'est fini, fini sa mission.
C'est terminus.
C'est
terminus. Eh oui, mais la manière dont tu m'as présenté. C'est
terminus, tout le monde monte alors.
Faire autrement, hein. Il aurait fallu que je te la fasse à toi.
À part pour les talibis.
Tu aurais servi si je l'avais passé. Tu l'aurais
tout
servi.
Tout le monde finit au Galénan. Pas de problème avec ça. Seulement, juste pour répondre à la question, c'est que quand il y a un Gilgoul, ça veut dire que l'Aneshama, l'incarnation qu'il y avait avant moi, d'accord, donc elle a fait une belle vie de Torah, Mitzvot, etc. Et elle n'a pas fini sa mission sur un détail, ou sur 15 détails. Et quand je redescends sur Terre, et ben moi, ma mission, c'est de terminer ces 15 détails.
Bon, on commence. On
d'accord? Non, justement, alors, moi, j'en sais rien maintenant. Moi, je dois faire toutes les mitzvot. Mais Dieu va faire en sorte que dans ma vie, d'accord, ma vie tournera souvent autour de ces 15 choses-là. Elle tournera souvent autour des choses pour lesquelles l'incarnation d'avant a buté. Et ça sera à moi de comprendre, de capter que ça, c'est ma mission. Maintenant, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, j'ai pas envie de le faire. Mais ça veut dire que mes challenges de maintenant correspondent à quelque chose sur laquelle un schéma
alors, si vous recevez une échama qui est complète, alors on n'avait plus de travail.
Non, si elle est complète, elle ne serait pas descendue.
Elle ne peut pas redescendre.
Alors, le mec, alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, il n'a plus de échama.
Ça peut être une femme aussi. Bon,
oui, enfin, voilà. Bon, d'accord. Alors, quoi? La personne n'a plus de échama si elle ne descend pas.
Mais il reste
et la réincarnation, elle se fait où alors? Chez qui?
Il reste chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi vous voulez qu'il redescende?
Alors, donc, on lui donne une autre Neshama qui n'a rien à voir.
S'il redescend, c'est qu'il a un travail à faire. S'il redescend pas, c'est qu'il n'a pas de travail à faire. Je vais vous dire plus que ça, M. Benita, puisque vous posez la question. En général, très souvent, l'incarnation qu'on a, c'est lié à une Neshama de notre famille.
De notre
famille.
Oui, oui.
C'est-à-dire
oui.
Que probablement, vous devez avoir en vous la Neshama d'un arrière-grand-père,
tout à fait.
Vous. Et donc, M. Benita, vous êtes en train de réparer les erreurs de votre arrière-grand-père, qui lui-même réparait les erreurs de son arrière-grand-père, etc. Mmh. Ça veut dire que peut-être qu'ils avaient un challenge sur une chose, qu'ils n'ont pas réussi pendant 15 réincarnations, et quand vous allez réussir, d'en haut, ils vont dire, bravo, il a réussi. Maintenant, au passage, il y a peut-être plein d'avérotes à côté. Mais ça, c'est pas vraiment dérangeant, puisque avant, ils les avaient déjà fait, ces mitzvot-là. Donc ça, quand je vous dis, on regarde pas. Nous, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on attendait, cette mission-là. Est-ce que tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Donc ça veut dire que ça prend, quand on analyse les choses comme ça, on comprend qu'en vérité, on peut pas analyser seulement au niveau du résultat, parce que pour analyser au niveau du résultat, il faut avoir un regard beaucoup beaucoup plus large, de savoir quand j'ai été créé pour la première fois, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Et c'est seulement là que je peux répondre à la question. C'est pour ça qu'on s'adresse au Benoni, on lui dit sache que si tu butes toute ta vie sur les mêmes choses, c'est que probablement c'est ta mission, et que tant que tu es sur terre, si tu es encore vivant, que t'es pas mort, parce que quand une personne a terminé sa mission, il meurt.
Il meurt, ouais,
bien sûr. Si une personne meurt à un mois, ça veut dire qu'il a terminé sa mission un mois. On connaît des histoires comme ça, par des gens par exemple, qui étaient des grands tzadikim, mais que pendant quelques jours dans leur vie, ils n'ont pas bu du lait kacher. Alors on les a fait redescendre pour qu'un mois dans leur vie, ils boivent du lait kacher chez nous. Et au bout d'un mois, ils meurent. C'est comme ça. Parce qu'il y a des missions. Une fois que tu termines la mission, tu t'en vas. Donc si on est là encore, au Hachem, jusqu'à 120 ans, ça veut dire qu'on a une mission. Et c'est pour ça, vous remarquerez qu'en général, les challenges qu'on a dans la vie sont toujours autour des mêmes choses.
Alors les missions, on peut les faire au ralenti, alors on attend.
Non, j'essaye, mais vous remarquerez que le challenge qu'on a, après ça prend différentes formes à différents âges de la vie, mais les challenges qu'on a sur notre caractère correspondent toujours à peu près aux mêmes choses.
De père en fils.
Ah oui. Réparateur de père en fils. Benita & Co, voilà.
Ce que tu dis pour la Neshama, c'est d'après la Neshama du juif.
Là, on s'arrête sur la Neshama du juif, oui.
Du goy, en fait, elle descend.
C'est différent. Du goy, c'est différent.
Est-ce que les animaux, ils ont une neshama, les animaux?
Tout ce qui vit sur terre a une âme.
Alors les plantes aussi.
Parce que neshama, en hébreu, ça veut dire une âme, ça veut dire une vie. Donc. Ça veut dire que tout ce qu'il y a autour de nous, le Zohar le dit, mais en vérité, la science l'explique aussi aujourd'hui, donc on n'avait pas besoin de la science, mais le Zohar le dit déjà, que chaque élément qui est autour de nous est un élément vivant. On le sait, ça, aujourd'hui. D'accord? Tout est. On sait très bien que le. On sait très bien que la matière, d'accord, c'est le mouvement de l'énergie. Enfin
des atomes qui sont rassemblés.
Donc tout a une vie. Voilà, ça n'existe pas quelque chose qui ne vit pas. Ça n'existe pas. D'accord. Même une pierre vit. Oui. Tout vit.
Donc, et il y a une neshama alors dans les plantes.
Évidemment,
dans tout ça.
Bien sûr. Il y a un mazal qui le correspond, qui lui dit.
Mais alors nous on a deux, vous avez dit. Et les autres aussi, ils ont deux.
Non.
De quoi?
Deux neshamot, nous.
Deux neshamot.
C'est nous qu'on a voir, c'est
si tu veux, on pourra peut-être expliquer ça comme ça. Je l'ai pas vu clairement, mais je pense qu'on peut expliquer comme ça. On a l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale, c'est ce qui fait en sorte que mon moteur tourne. Mais mon moteur, il tourne, mais bon, concrètement, c'est comme ma mission. C'est-à-dire, j'ai un moteur de voiture qui tourne. Maintenant, il est pas sur circuit encore. Il tourne, d'accord, mais il est pas sur circuit. L'âme, ça c'est l'âme animale, qui fait en sorte que mon corps tourne. L'âme divine, c'est elle qui me permet, qui me dirige dans ma vie pour m'amener vers mes missions. Elle s'arrange pour que je vais passer à côté de, par exemple, si je dois me travailler, je sais pas moi, sur la générosité, sur la colère, elle va s'arranger pour que dans ma vie je tourne autour de ça pour me travailler. Et chaque fois que je me travaille, je récupère, je répare quelque chose qui devait être réparé dans un gilgoul. Donc c'est pour ça que quand on s'adresse au Bédoni, on lui dit tu peux pas être déprimé quand ça marche pas. Parce que ça fait plusieurs incarnations que ça marche pas. C'est pas grave, t'inquiète pas si ça marche pas. Et toi, tu essayes. Et à la fin, quand tu vas réussir, on va tout te comptabiliser depuis le début des temps.
Enfin, on nous demande que ça marche dans quelque chose, mais on nous donne pas le cahier des charges.
Alors, quelqu'un qui peut nous donner le cahier des charges?
Le cahier des charges, c'est que quand tu vois que tu butes sur quelque chose, c'est que c'est probablement ta mission. Voilà le cahier des charges.
Non, mais on aurait eu, par exemple, sachant à l'avance, on aurait fait plusieurs.
Par exemple. Avec une touche d'humour, hein.
Plusieurs.
Il y a des gens, des fois, qui se plaignent, qui s'entendent pas avec leur femme.
Ou alors, j'aurais prié celles que je peux faire, d'accord, qui sont plus faciles.
Monsieur Benita, écoutez. Par exemple, il y a des gens qui se plaignent, qui s'entendent pas avec leur femme.
Non.
Ils s'entendent pas. C'est un challenge pour eux. Ça veut dire que, quand il était jeune, il s'entendait pas avec elle. Quand il a eu des enfants, il s'entendait pas avec elle. Quand il a eu des petits-enfants, il s'entend pas avec elle. Il s'entend jamais avec elle. S'il s'entend pas avec elle, d'accord? S'il s'entend pas avec elle, c'est que probablement, dans l'incarnation précédente, il s'entendait pas non plus. Et que son rôle, ici-bas sur Terre, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils s'entendent.
Ils sont dans l'incarnation précédente, ils s'entendent. Mais c'est pas dit qu'ils étaient les mêmes âmes.
Certainement.
Chacune, il avait une âme
différente. Très certainement. Alors voilà, ça c'est les calculs de Dieu, on n'est pas dans les calculs de Dieu. Je vous donne des exemples. Je donne des pistes, parce que Michael a demandé des pistes. Non, je donne des pistes.
J'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire les poinçons dans le camp?
Ces équipes, ils peuvent t'aider.
Voilà.
Ils peuvent t'aider. Mais personne ne peut savoir.
Parce qu'à ce moment-là, on peut commencer par les plus faciles.
Tu les fais, puis t'es plus loin.
Au moins, on est limité.
Mais j'ai pas besoin d'un tzadik pour le savoir. C'est très simple. Les choses sur lesquelles je vois que je bute, ça veut dire que c'est mes challenges.
Si tu butes sur nous.
Non. Il y a des choses dans la vie qui nous sont plus difficiles que d'autres.
Ça, c'est vrai.
Par exemple, t'as une personne pour qui faire le Shabbat, faire les fêtes, c'est très facile, mais se lever le matin et faire la midah avec les tefillines, il n'arrive pas. Ça prend 10 minutes, il n'arrive pas. Pourtant, il est capable de faire 26 heures dans un Shabbat. Mais 5 minutes, il est incapable de donner. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment tu peux comprendre ça?
Parce qu'il veut pas se lever.
Ou bien, t'as une personne, par exemple, qui a un challenge sur la tzedaka. Il n'arrive pas à donner la tzedaka. Il n'arrive pas. Il voit quelqu'un qui demande, il n'arrive pas à donner. Il n'arrive pas, c'est plus fort que lui. Mais c'est rien. Il n'est pas un euro près. Pourquoi tu donnes pas 1 euro? Pourquoi tu lui donnes pas? Pourquoi tu donnes pas 5 euros? Pourquoi tu donnes pas 10 euros? Il arrive pas. S'il a un challenge sur ça, c'est que probablement, c'est un challenge qui date depuis plusieurs Gilgoulim. Et que c'est à moi de me travailler pour réussir. D'accord? Mais ça, de toute façon, on le voit. Vous savez, plus on avance dans l'âge, bah, au Hachem, je suis encore jeune et on en est tous jeunes. Mais plus on avance dans l'âge, et plus on voit qu'en vérité, on se rend compte qu'en vérité, toute la vie, on tourne autour des mêmes choses. Toute la vie, on tourne autour du même caractère, des mêmes choses, et que ça tourne d'une manière ou d'une autre, toujours autour des mêmes choses. C'est pas par hasard. Parce que ça, c'est les challenges de l'Neshama d'avant, et on est en train de réparer, réparer la chose d'un Gilgoul. Vous savez, en passant, c'est pour ça que, alors ça aussi, ça apprend, aujourd'hui, beaucoup de choses à prendre avec des pincettes, hein, c'était vraiment un cours pour initier aujourd'hui. C'est pour ça que, dans la Chassidoute, on explique que, quand un homme et une femme ne s'entendent pas, il faut tout faire pour ne pas divorcer. Tout faire, mais vraiment tout. Quand on dit, comment dire en hébreu, akol kacher lakol. Ça veut dire vraiment tout. Pourquoi? Parce qu'on estime que s'ils sont ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui est ensemble. Il y a un gilgoul. Et que, ça sert à rien. Si tu les feras divorcer, Dieu fera en sorte qu'ils devront redescendre sur terre pour se rencontrer encore une fois. C'est très sérieux ce que je vous dis. Mais c'est oui. C'est, ça veut dire que, ils devront redescendre sur, forcément qu'ils devront redescendre. Il y a une mission.
C'est l'enfer sur terre.
Enfin, ça dépend.
La Torah accepte, parce qu'il y a une notion de libre arbitre, elle accepte la notion de divorce. Mais il faut savoir, non, c'est important à savoir ça. C'est important à savoir que si on bute sur des choses, c'est qu'il y a une mission. C'est comme
bonus.
Ça.
Pourquoi tu dis pas, tu crois pas du contrat, tu vois que le premier mariage n'était pas bon?
Que quoi?
Le premier mariage n'était pas bon.
Non, j'ai pas dit ça.
Et pourquoi tu dis pas ça?
Parce que le premier mariage, c'est un mazal.
Le deuxième, c'est pas tout le temps un mazal. Hein.
Si je me suis marié avec le mazal, c'est que certainement que c'est mon mazal qui me correspond à mon échama. Un mazal, ça veut pas dire que c'est facile. Personne n'a dit que se marier, c'est facile. Et c'est se marier, c'est une mission. Une mission peut être plus facile, peut être plus difficile. Et si elle est difficile, c'est qu'on estime que tu es Superman. T'as compris, monsieur Mélisa?
Voilà. Quelle mission!
Voilà, il t'a cloué, là, ça y est, top!
Non, il y a quelque chose avec laquelle que je ne partage pas. C'est celle qui consiste à. Non, mais
s'il vous plaît. Allez, il faut parler un peu.
Non, il y a
quelque chose. Le bon depuis tout à l'heure, il est.
Vous laissez la parole à monsieur.
Bon, monsieur Mélisa, on lui donne la parole 30 secondes. Allez, 1, 2,
terminé. Allez-y. Non, il y a quelque chose simplement que je ne partage pas. Celle qui consiste à dire, si un couple lui veut divorcer,
messieurs,
il faut tout faire pour ne pas les, pour les laisser ensemble.
Mais ça, pas seulement pour les enfants.
Oui, non. Oui. Mais ça dépend l'origine du dispute. Il a trompé, il la bat, le mec il se saoule, il dépense tout l'argent avec les.
Il a raison.
Voilà. Il y a des cas. On veut pas, dans ce cas-là.
Il y a des cas, monsieur Benita, il y a des cas dans lesquels la halakha nous dit qu'on doit divorcer.
Ah ben donc non, mais vous pouvez
ça
pas.
C'est la halakha qui décide.
Non, mais vous pouvez pas dire et non, dire à tout le monde.
Alors, moi, je veux dire quelque chose de très simple. Dans un cas dans lequel la halakha dit qu'on doit divorcer, pas seulement qu'on peut divorcer, ça veut dire que Dieu estime que la mission est terminée avec cette femme. C'est tout.
Mais on peut pas.
Mais c'est très rare les cas où la Torah dit qu'on doit divorcer. C'est très très rare. En général, c'est on peut divorcer. Il y a quelques cas très rares. Ça arrive pratiquement jamais.
C'est quoi un exemple?
Oui, bien sûr, il y a des exemples.
L'adultère.
Par exemple, voilà, il y a un exemple, une femme, par exemple, qui a trompé son mari, etc. Il y a des cas où on doit divorcer. Si la femme dit je dois divorcer, c'est fini. D'accord? Mais si je suis pas dans ce cas-là, je dois tout faire pour essayer de faire en sorte que ça tienne, même si c'est difficile. Parce qu'on n'est pas là pour faire, on n'est pas là en pique-nique ici, on est là pour travailler. C'est un travail, et c'est une mission. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On essaye. Et s'il y a des semaines où c'est mieux que d'autres, et ben c'est comme ça.
Non, c'est vrai, mais enfin, c'est-à-dire que, bon, allez, hop.
Allez
passe 214.
Hein. Ok, on y va.
221. Écoutez les herbes aux cheveux blancs.
Alors.
Il y a Dina Klein.
Voilà. Maintenant, il te dit autre chose. Il te dit, bon, t'arrêtes pas de mariner depuis tout à l'heure, de me dire qu'une bonne pensée, Dieu la joint à l'action. Très bien, je suis en bas de la page 221. Et pourquoi tu me dis qu'une bonne pensée, Dieu la joint à l'action? Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit, parce que, chaque fois que tu as essayé de le faire, Dieu te considère comme si tu l'as fait, que c'est extraordinaire. Et c'est pour, enfin, Dieu te considère comme si tu es en train de te préparer et que ça, tu vas intensifier la kavana. Très bien, on a expliqué. Maintenant, il rajoute un petit détail. Il dit pourquoi la Gemara employait le terme machashava toa.
Une bonne pensée.
Une bonne pensée. En vérité, quel terme on aurait dû employer?
L'intention.
Kavana.
Ah oui.
Kavana toa. Une bonne intention. Pourquoi le terme machashava? Alors, c'est quoi la pensée? Où se trouve la pensée?
Dans la tête.
D'accord? Où se trouve?
L'intention, c'est dans le cœur.
La kavana dans
le cœur. La kavana dans le cœur. Vous remarquez ici que la Gemara a intentionnellement n'a pas dit le mot kavana tova. Elle n'a pas dit qu'une bonne intention dans le cœur, Dieu va t'amener vers l'action. Elle n'a pas dit ça, elle dit machashavatova. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, en vérité, on apprend quelque chose de beaucoup plus puissant. Jusqu'à maintenant, de quoi on parlait? On parlait d'un Benoni qui essaye à chaque fois. Mais bon, je voulais présenter Superman, quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois, il essaye. Et à chaque fois, il veut grave et ça marche pas. Bon, au moins, lui, il voulait. Mais il y a des cas dans lesquels, dans son cœur, il veut pas. Dans la tête, il a décidé qu'il va le faire. Mais dans son cœur, il n'en a rien à faire. Et il essaye une fois, deux fois, trois fois. Alors là, j'ai envie de dire, attends, il a essayé dans sa tête, il a rien vibré, il a rien ressenti. Qu'est-ce qu'il te raconte l'histoire? Qu'est-ce qu'il te dit, monsieur Benita? Qu'est-ce qu'il te dit? Il te répond, il te dit comme ça. D'accord? Il te dit comme ça. Il te dit, tu dois savoir que même Machashava Tova, même si ce que tu as eu, c'est uniquement une bonne pensée, c'est même pas une intention, ni t'as réussi, ni t'as vibré dans ton cœur pour vouloir le faire, c'est juste une pensée. C'est quand tu te levais un matin, tu dis la vérité, ce serait bien que demain matin je fasse ça. Une pensée. Et t'as eu une pensée, mais profonde, sincère. Mais concrètement, c'est pas que t'as vibré, que c'est fini, t'as commencé à t'envoler. Non, rien du tout. Juste t'as eu une bonne pensée, tu as réfléchi sérieusement à ta situation, t'as dit, il faudrait que je fasse ça. Et j'ai décidé. J'ai pensé, mais j'ai pas fait. Et ben on te dit, même ça, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, ça fait partie du parcours de tes choix. T'as pas besoin d'arriver seulement à la kavana. C'est pas seulement les fois où tu vibrais, t'avais l'intention, et tu l'as pas fait. Même si c'est un cas où t'avais pas l'intention de le faire, mais t'as compris que tu dois le faire. Vous savez, ça arrive beaucoup ça aux gens qui font teshuva. Et on fait tous teshuva, on est tous des balles teshuva. Exactement. Que des fois, tu te répètes plusieurs fois, d'accord? Plusieurs fois dans ta tête, tu te répètes, tu dis, il faut que je fasse ça. Maintenant, quand on te demande la question, tu dis, est-ce que tu as l'intention de le faire? Tu dis, je sais pas, j'en sais rien. Mais il faut que je le fasse. Mais alors, t'as l'intention, mais je le fais pas. Voilà. Eh ben, il te dit, c'est pas grave. Le fait même d'avoir dédié un moment pour réfléchir au fait que je dois le faire, donc c'est une décision dans la tête, c'est même pas dans le cœur, ni dans l'action. Eh ben, le fait même que tu l'as fait, à Kadosh Baruch Hu, t'es déjà dans ton début de parcours de ta mitzvah, et c'est comptabilisé dans la mitzvah que tu feras au bout du compte, au bout de parcours.
C'est le début de l'action.
Ou ouais, mais enfin, là.
Parce que c'est le début de la kavana qui sera le début de l'action. Voilà. Mais c'est un début.
Ça va, mais c'est l'embryon.
C'est-à-dire qu'il se travaille.
Ça va, c'est l'embryon.
Mais tu le fais pas.
Je reprends la question une seconde. C'est pas grave, il le fait pas, mais le fait même qu'il décide qu'il doit le faire, c'est ce qui va faire qu'un jour il le fera.
C'est un bon début.
Ça n'existe pas qu'un jour on se lève et on fait. Ça marche pas comme ça. Si je me le suis levé un jour et j'ai fait, ça veut dire que longtemps avant, j'arrête pas de réfléchir et finalement un jour je le fais. D'abord, j'y ai pensé pour répondre à ta question. D'abord, j'y pense. Après, j'ai l'intention de le faire et après, je le fais. Maintenant, des fois, il y a 15 ans entre chaque étape. Il faut 15 ans pour comprendre que je dois le faire, après 15 ans pour avoir l'intention de le faire, et après 15 ans pour le faire. C'est la vie, ce que je vous dis. C'est la vie de tous les jours, ça.
Absolument d'accord avec vous.
Et il te dit, sache que Dieu ne compte entre-temps, il y a des qui pour qui passent. Et à chaque fois, il dit, je le ferai,
voilà,
et walou.
Voilà. Ouais, mais alors, attendez, vous dites 15 ans, par exemple, c'est une image. Mais alors, il y a 613 mitzvot, comment je vais faire alors?
Monsieur Benita.
Alors,
Monsieur Benita, ça fait 613 secondes.
613 fois 15 ans. Alors, il faut 50 vies.
Mais c'est pas grave. Si je bute sur une mitzvah spécifique, c'est que cette mitzvah doit être probablement mon Gilgoul. La raison pour laquelle je suis là, c'est pas grave. Si je bute sur ça, c'est que c'est ma fonction. Donc celui qui va venir et qui va dire, bon, c'est pas grave, une mitzvah, je bute, je la zappe, je fais les autres. Il dit, mais t'as rien compris. Les autres, si tu butes pas dessus, c'est que ça a déjà été fait dans un guilgoul d'avant. Donc tu perds ton temps. Tu ferais pas celle-là, tu devras redescendre. Ça, tu perds ton temps.
Oui, mais cette mitzvah, je la fais quand même. Sophie peut. Cette mitzvah, je la fais pas. Donc je vais laisser à mon
succès. Exactement.
Oui. Donc j'ai intérêt à la faire.
Un bouteille. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui est avant Mashiach. D'accord? Ça veut dire qu'on s'approche à grands pas de Mashiach. Ça veut dire qu'on est dans des réincarnations qui sont normalement, probablement, dans le dernier parcours. On est en dernier parcours. Là. Ça veut dire que les Neshamot qui est en nous, c'est des Neshamot qui ont déjà passé pratiquement toutes les mitzvot. Ouais. Qui étaient là à l'époque du Beit HaMikdash, qui étaient là à l'époque à la sortie d'Égypte. Ils étaient là-bas, ils ont déjà tout passé. Et il manque des petits détails. Et ces détails, on les fait maintenant. C'est les détails, sur lesquels on bute. Ça veut dire que, on est en train, il faut se dire que quand la Gemara te dit que quand une personne fait une mitzvah, il doit se dire qu'il change le monde, c'est une réalité. Parce que le monde entier, on attend, depuis la création du monde, que tu termines ta mission. Si je suis là, c'est que ma mission n'est pas terminée. Parce que c'est très simple. Tant que tu es sur Terre, c'est que t'as une mission. Sinon, t'es pas là.
Oui, mais comment?
Je suis pas là, pour pas parler d'autres.
Les indices, Yaman n'est pas là, mais lui.
Les indices, c'est les choses sur lesquelles je bute. Dieu s'arrange pour m'amener, me diriger, naturellement, vers les choses qui sont la fonction de la Neshama.
Mendy, une question, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs Neshamot en même temps?
Oui. Pas plusieurs Neshamot, on peut avoir plusieurs particules de Neshamot. C'est pour ça, par exemple, le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Il dit, par exemple, on va rester 10 ans habiter dans un endroit et après on déménage. Fais la lia, on fait, etc. Pourquoi tu crois que tu as déménagé? Tu crois parce que tu as décidé que tu as déménagé? Tu habitais telle rue, après telle rue, après telle rue? Baal Shem Tov, il dit non. Il dit, en vérité, l'endroit dans lequel on habite, c'est décidé par le Kadosh Baruch Hu. Par rapport à une fonction, une mission qu'on a dans l'endroit où on se trouve. Donc probablement que si je me trouve ici maintenant à Paris, rue Paul Enfer, rue Fernand Vidal, c'est là où je me trouve, d'accord, c'est que j'ai une fonction, j'ai une mission à gérer ici. Et tant que cette mission ne sera pas terminée, je resterai là. Mais le jour où cette mission sera terminée, Dieu s'arrangera pour que je parte ailleurs.
Mais en ce temps, j'ai 4 enfants, j'ai oublié de déménager de toute façon. Alors, comment donc c'est même pas... J'ai un 2 pièces et après j'ai 4 enfants.
C'est 4 enfants, alors, qu'est-ce que je fais?
Mais Monsieur Benita, comment...
Donc c'est même pas...
Mais je peux déménager partout dans le monde. Pourquoi je déménageais dans telle rue, tel numéro de rue, à tel étage, à côté de tel voisin?
Très simplement parce que l'office des HLM m'a attribué celui-là.
Eh ben non, ça marche pas comme ça.
Ah bah oui.
Est-ce que vous croyez? D'accord. Faut enlever le L dans HLM, il faut laisser HM. Alors. Parce que c'est HM qui décide. C'est HM qui décide que je dois aller à côté de tel voisin. J'ai une mission. Même avec un goy, je peux avoir une mission.
Un goy?
Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi tu crois que j'ai mis à côté d'un voisin? Et il est blatta, il te casse les pieds. Tu crois que Dieu, il a fait exprès de te mettre là? Bien sûr qu'il a fait exprès. T'as une mission avec lui qui se retrouve avec là comme ça? Il y a une mission, il n'y a rien qui est fait par hasard, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est fait par hasard. C'est comme ça qu'il faut réfléchir.
Avec des antisémites, c'est la même façon. Quand t'as un voisin antisémite, c'est pareil.
Il y a toujours une fonction. Tu crois que Dieu, il a que ça à faire, à te casser les pieds, à te mettre un voisin antisémite? Bah, on est les enfants de Dieu. Ton fils, tu l'as remis dans un endroit où il y a un quelqu'un qui lui casse les pieds à côté? J'ai compris, mais est-ce que ton fils, tu l'aurais installé dans un endroit où il y a un ennemi qui lui casse les pieds? Évidemment non. Pourquoi tu me mets à côté de quelqu'un?
Enfin, pourtant, c'est ce qui se passe.
J'en sais rien.
Il nous alors, place tout le temps devant les
peut-être qu'au travers de l'antisémitisme, il va m'aider à me rappeler que je suis juif, j'en sais rien.
Mais depuis Babylone jusqu'à aujourd'hui.
On m'a raconté récemment l'histoire du Rav Haïkin, Zichrono Livracha, Zatzadik Livracha. Qu'une fois, hein, quand il était, je crois, on m'a raconté comme ça, quand il était, alors je ne me rappelle plus exactement les détails de l'histoire, c'est que quand il était une fois dans la rue, il y a un goy qui lui dit sale juif. D'accord? Et je ne me rappelle plus s'il lui a dit merci ou pas merci, mais en tout cas, d'accord? En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit, c'est bizarre, il s'est travaillé, il s'est dit, mais pourquoi il m'a dit sale juif? Et quand il a vérifié ses poches, c'était Shabbat, et il a vu qu'il avait un mouchoir dans sa poche. C'est-à-dire qu'en vérité, du fait que le goy lui dit sale juif, il s'est dit, pourquoi un goy m'a dit sale juif? Comme ça, il m'a dit sale juif. Parce que Dieu, il a mis dans ma... Pourquoi il m'a dit c'est le juif? Parce qu'en vérité, le goy voulait rappeler que tu dois te rappeler que tu es juif et que tu dois te rappeler que tu dois te travailler. Enfin bon, ça, je suis conscient que c'est quelque chose de pas facile.
Pas
non, ça marche. Enfin, moi, j'essaie de réfléchir comme ça marche. Je vous promets que ça marche.
À chaque truc qui nous arrive dans la vie, il faut trouver le sens pourquoi ça
marche. Ah oui, oui. Ça marche à 1000%. Moi, je l'ai vu dans tout l'endroit où j'ai habité. J'avais une fonction à faire. Et dès que cette fonction s'est terminée, parce que par exemple, la personne sur laquelle j'avais influence, elle est morte ou elle est partie, etc., j'ai déménagé. Je l'ai vu de mes yeux, ça. Hein. C'est quelque chose que... C'est-à-dire qu'il y a une porte qui se débloque à ce moment-là.
Même quand on tombe,
il y a rien qui est par hasard. Dieu, il te range, il te dirige pour ça.
Il n'y a pas de hasard.
Alors, on va continuer. C'est déjà l'heure. Juste, je termine le paragraphe. D'accord? Donc, conclusion. Avec ça, on conclut la troisième partie, notre troisième cours sur le chapitre 16. En fait, là maintenant, on a déjà trois grands principes pour le Benoni. Principe numéro un, qui était le premier cours. L'essentiel n'est pas le résultat, l'essentiel est le travail. Principe numéro deux qu'on a expliqué. On dit, tu dois simuler, même si tu as l'impression que c'est pas toi, tu dois quand même t'efforcer d'avancer, même si tu as l'impression que c'est pas toi. Et troisième grand principe qu'on a expliqué aujourd'hui dans le travail des Benoni. On a dit, sache que chaque fois que tu as essayé, même si c'était seulement en pensée et que concrètement tu l'as pas fait, eh ben Dieu te comptabilise ça dans le cadre général de la mitzvah que tu réussiras à la fin. Le jour où tu réussiras, il dira je te comptabilise toutes les fois où tu as pensé le faire, enfin tu as compris que tu devais le faire, tu as eu l'intention de le faire et tu l'as fait. Donc ça veut dire qu'avec ça on peut comprendre que quand moi aujourd'hui je vais faire une petite mitzvah, cette petite mitzvah peut être issue du fruit d'un travail de plusieurs millénaires. Et ça change le monde. Ça change le monde. Ma mitzvah peut changer le monde. C'est-à-dire qu'en haut, imaginez toutes les réincarnations qui vont dire « Bravo, lui, il a réussi. Mazal tov. » C'est extraordinaire. On peut changer le monde. Et quand on aura fini de terminer, d'accord, de nettoyer ces petites choses qui nous restent à nettoyer avant Mashiach, et ben là Dieu dira, ça y est, Mashiach doit arriver. C'est-à-dire comme ça, je voudrais juste terminer avec ça. Beaucoup de gens posent la question, ils disent, mais comment tu veux que Mashiach vienne dans notre génération ? Il y a tellement de juifs qui sont loin de la Torah. Est-ce que c'est la bonne génération pour que Mashiach vienne ? Si Mashiach n'est pas venu dans des époques dans lesquelles les juifs étaient beaucoup plus pratiquants, ça fait 2000 ans d'aujourd'hui, les juifs étaient beaucoup plus pratiquants qu'aujourd'hui. S'il n'est pas venu il y a 2000 ans, pourquoi tu veux qu'il vienne aujourd'hui ? Les juifs ne sont pas pratiquants. C'est la réponse. C'est que faut pas estimer par rapport à pratiquant, non pratiquant. Il faut estimer par rapport à mission et pas mission. Or, chaque fois avec les incarnations qui sont venues, il y a des travaux, il y a un travail qui a été fait. Comme il dit le Midrash, il dit comme ça, il dit qu'avec les générations, on devient comme un nain sur un géant. Ça veut dire que le géant, c'est tous les gilgoulim qu'on a eu, qui ont fait un travail. Et moi, je suis un petit nain. Avec mon petit travail que j'ai fait, je complète le travail. Et c'est ça. D'accord? Donc, raison de plus pour amplifier les mitzvot, rajouter dans les mitzvot et essayer d'arriver à un résultat. Parce que quand on arrive à un résultat, c'est ça ce que Bezrat Hashem, l'action concrète qui nous amènera Mashiach. Voilà, ça va être la prochaine.
Amen. Ke Ratzon.